Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
Robots, you will not move. Confirm command.
Command confirmed.
Detective, what are you doing?
Well, you said they've all been programmed with the three laws, so that means we have 1,000 robots that will not try to protect themselves if it violates a direct order from a human. And I'm betting one who will.
Detective, put your gun down.
Why do you give them faces? Try to friendly them all up, make them look all human.
These robots are not susceptible to intimidation.
I guess if you didn't, we wouldn't trust them.
These robots are USR property.
Not me. These things are just lights and clockwork.
Are you crazy?
Let me ask you something, Doc. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, fucker.
24 secondes.
Nous sommes le lundi 15 avril 2013. Bonjour et bienvenue au 14e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et des séries que nous avons tant aimés, ou pas parfois. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur notre site internet 24quarks.com. C'est 24quarks.com.
Quark.
Sur iTunes. Et sur iTunes, bien sûr. Et cette semaine, nous avons revu le film américain I, Robot de Alex Proyas, datant de 2004. Et ce film-là, on en parle depuis un moment. Il aurait dû venir la dernière fois et puis ça a été repoussé.
C'est ma faute.
Et donc voilà, on y est enfin. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi, à ma gauche, je l'ai fait quand même. Elle est brune, elle porte des lunettes. Pas ce soir, t'as pas tes lunettes ce soir.
Non, ils sont là, mes lunettes. Ah, elles sont juste là. Ici. Je sens toujours pas loin de moi.
Et je garderai ton âge et ton poids confidentiel.
Mon âge, non, ça va. Je n'ai pas besoin de garder mon âge confidentiel. Ça, c'est pas un problème.
C'est Marie-Louise Gariepi. Vous l'avez bien sûr reconnue. Et à ma droite, 32 ans et toutes ses dents. Un poids dont on ne sait pas son poids.
Sur ses dents de sagesse, je vais le préciser.
Dès qu'elle essaie comme relativement maladroitement, je trouve, de nous placer dans un ring de vol.
Ça, ce serait une bonne confrontation ce soir.
Parce qu'on en a beaucoup parlé.
C'est ça, on a parlé de la confrontation, donc c'est pour ça que je voulais m'amuser à faire un petit jeu comme ça. Enfin bref, donc, il est là, il est avec nous, c'est Olivier Sabineau.
Bonjour.
Et voilà, et pour se mettre dans le bain, on va se faire un petit résumé, comme toujours. Alors, iRobot. En 2035, les robots sont pleinement intégrés à notre vie quotidienne. Et tout le monde a confiance en eux, à l'exception du détective technophobe, légèrement paranoïaque. Del Spooner, joué par Will Smith, qui enquête sur le suicide slash meurtre, on ne sait pas trop au début, du fondateur de la robotique, enfin, d'après le scénario du film, bien sûr, le docteur Alfred Lanning, joué par James Cromwell, dont il est le seul à penser qu'il est l'œuvre d'un robot, l'accident slash meurtre. Aidé par la psychologue Susan Calvin, jouée par Bridget Moynan, cette enquête l'amènera à découvrir une bien plus terrifiante menace pour la race humaine. Voilà.
Ooh.
Alors, qu'est-ce qu'il veut commencer à nous dire quand c'est qu'il a vu ce film et comment il l'a
Moi, je pense que je peux y aller.
Ouais.
Vas-y.
Alors, je l'ai vu au cinéma. Ça, c'est sûr que j'ai vu au cinéma. Parce que les effets spéciaux me semblaient meilleurs à l'époque. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que je commence avec les commentaires tout de suite. Donc, j'ai vu au cinéma et effectivement, quand j'ai vu ce film-là, j'ai tout de suite profondément détesté ce film. En le regardant, avant, j'avais beaucoup d'attentes, en fait, parce que je suis une fan de science-fiction. Mettons que je n'aurais pas une connaisseuse de littérature de science-fiction, mais j'avais quand même lu le fameux iRobot d'Asimov et plusieurs autres livres de science-fiction. Et iRobot, bon, je dirais pas qu'Asimov, c'est le plus grand auteur de science-fiction qui a jamais existé, mais c'est quand même probablement une des personnalités de la science-fiction les plus importantes parce qu'il a édité beaucoup d'auteurs. C'était quelqu'un qui était un chimiste à la base. Donc, c'est comme une sorte de dieu, si tu veux, sacro-saint de la science-fiction. Alors, j'attendais ce film-là en espérant voir iRobot d'Asimov à l'écran. Et ce n'était pas du tout ça. Et non seulement ça, à l'époque, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de tolérance et même d'amour pour ce genre-là. Mais à l'époque, je n'étais vraiment pas fan du film d'action, du gros film d'action. Là. C'est un genre qui me rebutait beaucoup. Et aujourd'hui, j'aime plusieurs films d'action, mais je pense qu'ils sont mieux faits. Et donc, c'était pas très apprécié. Donc, à l'époque, comme si ça faisait 20 ans, là, c'était quoi? C'est il y a 8 ans?
2004.
Bien sûr, en 2004, en même temps que les fameuses Converse qu'il portait de 2004.
Ah oui.
Il dit ça dès le début du film. dès qu'il y a 17 cette réplique-là.
Il n'y a pas prévu qu'il y en aurait encore en 2035.
Dès que j'ai... Non, mais ça, c'était du vintage, puis il fallait qu'ils disent datant de 2004.
À moins qu'il y ait des fleurs dessus, on s'entend que ça fait 30 ans qu'ils sont exactement identiques. Là. Fait qu'ils soient vintage 2004 ou vintage 79.
Oui, mais c'était mentionné dans la réplique du film.
Sa moto, elle est de 2004 aussi, d'ailleurs. En passant.
Et donc, du coup, ben c'est ça, 2004, c'est il y a 8 ans. Quand même un petit bout là, que c'est sorti. Puis voilà. Donc, c'était mon commentaire. Donc, vraiment grande déception à l'époque.
Puis à le revoir, là?
Ah, à le revoir? Écoute... Ben,
on va rentrer en détail après, mais...
Non, mais parce qu'on s'était quand même donné l'objectif de que je regarde le film pour le film. J'ai appris des choses intéressantes en faisant ma recherche sur Wikipédia. Je suis allée très loin.
Il y a pas mal de trucs qui se recoupent. Hein.
J'ai fait des recherches et tout, mais tu finis toujours par trouver les choses les plus intéressantes sur Wikipédia parce que c'était intéressant.
Parce que c'est faux, peut-être.
Non, mais c'est ça. Puis ça m'a fait réaliser qu'en fait, ce film-là aurait pu être un très bon film tout court. Ouais. Et j'ai vu tellement de sabotage jusqu'au... on va en parler tantôt, mais c'est cette histoire-là, j'ai trouvé ça, comme c'est intéressant, tu sais, jusqu'à utiliser, en tout cas. Donc, j'ai appris des choses intéressantes. Et puis, le film pour le film, non, je ne l'ai pas aimé, mais je n'ai pas eu autant de...
De haine que la première fois.
De haine, non. Non, je l'ai regardé pour le regarder. Il y avait des... La musique était intéressante. Je me tiquais un petit peu. C'est super classique, mais bien fait. Il y avait des petits trucs bien, là, quoi. Des bonnes répliques. C'était pas mal écrit, là, on peut pas dire. Tu sais, je peux pas dire, c'est pas un navet, là. C'est ça que je veux dire, ouais. c'est pas un navet, là.
Bon, c'est bien.
Nicolas vient faire la neutralité entre elle et moi.
j'ai pas un souvenir très clair de quand je l'ai vu à la sortie, mais... j'ai pas un souvenir très clair de pourquoi j'avais trouvé ça moyen, mais c'est ça, je l'avais trouvé bof, tu sais. Et en fait, mon sentiment n'a pas changé. Sauf que maintenant, en le revoyant, je vois exactement pourquoi je trouve ça. Pourquoi il m'énerve ce film, en fait. C'est ça. Il a tendance à m'énerver, ce film. Ce qui me dérange le plus, c'est que c'est bourré de clichés. Ça commence avec un gros cliché. Enfin, c'est bourré de clichés. Il y a quelques petits soubresauts de choses intéressantes dedans qui sont tellement pas exploitées que c'est décevant.
En fait, c'est ce qui reste du scénario original, je pense.
Ouais, je pense que c'est ça.
Oui, clair, on en parlera.
C'est ça. Et puis, c'est un peu film d'action 101, quoi, finalement. Tu sais, c'est comme plot point après plot point. C'est du scénario standard hollywoodien. C'est ça, avec tous les clichés, tout ce que tu peux... Enfin, c'est prévisible. Avec la scène d'action spectaculaire qui vient au moment où tu l'attends. Enfin, etc. Enfin, c'est vraiment... C'est construit de manière sans aucune surprise et... C'est ça qui m'a un peu laissé... Parce que je suis absolument pas contre de prendre cette histoire puis d'en faire quelque chose, d'en faire un film d'action. C'est juste que ça aurait pu être fait de manière un petit peu plus subtile puis pas juste du gros blockbuster d'été. Mais bon, visiblement, ça a plu, quoi, je crois.
Oui, c'est un succès au box-office. Oui,
ça fait beaucoup d'argent.
J'ai l'impression que pas mal de gens autour de moi aiment bien ce film.
Oui, oui, ça fait beaucoup d'argent.
Mais autour de toi, à ta droite. Hein. Mais juste à ta droite, pas à ta gauche.
Donc c'est ça, vas-y, explique-nous.
Moi, j'ai aucun souvenir de la première fois où j'ai vu ce film-là. Je suis plus certain si je l'ai vu au cinéma ou quand c'est sorti après. Bon, ça fait quand même une couple d'années que je vais de moins en moins au cinéma parce que quand tu finis par avoir une télé légèrement au-dessus de 40 pouces, à un moment donné, tu te déplaces de moins en moins. Je devrais, parce que je commence à être bedonnant un peu. Mais moi, c'est un film, contrairement à vous, qui m'a tout de suite plu. Moi, qui connaissais pas du tout l'univers d'Asimov, à part des Weddir, j'avais jamais lu ce grand auteur de science-fiction, que je viens de régler pour la première fois, en fait. Parce qu'on s'était dit quand même dans le challenge, là, on savait que Marie-Louise et moi, au moins, qu'on avait une opinion complètement inverse.
Ouais.
Mais ça partait du fait qu'il y avait un livre en tout ça qui venait d'un grand maître de la science-fiction, et il fallait... veut pas le comparer, mais je pense qu'elle a l'erreur, c'est que c'est deux entités qui ont absolument rien à voir ensemble. On va en parler plus tantôt.
Moi, je suis le seul qui n'a pas lu le livre. Alors, j'ai lu d'autres choses de la série des robots de Asimov.
Mais je pense que ça peut quand même bien te placer parce que j'imagine qu'Asimov, moi, j'ai lu un seul livre. Bon, j'ai presque réussi à le finir. Il me reste les deux derniers chapitres. Mais je pense que j'ai quand même bien saisi un peu le style.
Je te dirais que l'avant-dernier chapitre, si tu l'as pas lu, c'est dommage parce que ça règle, ça deal avec justement comment un robot dealerait en état de pouvoir de l'humanité, en état comme... Parce que c'est l'histoire du politicien, là.
Okay,
le robot qui devient politicien.
Okay.
Mais c'est ça, c'est, en fait, c'est que le livre, c'est un ramassé de nouvelles qui suivent, mais pas vraiment, qui réussissent à être indépendantes, mais bon, Asimov tisse un petit lien entre chacune. Mais c'est plein d'idées intéressantes exprimées autour de l'intelligence artificielle, puis de la gestion des robots, puis de l'évolution de ces robots-là. Le film a rien à voir,
c'est
deux choses complètement différentes.
C'est ça, le livre, c'est un recueil de...
C'est un recueil de nouvelles
qui ont été écrites
à différents moments.
En plus, c'est l'éditeur qui a choisi le titre, en plus, iRobot, puis Asimov voulait même pas.
Ben oui, parce que c'était basé sur le titre d'un autre. Ce que je trouve comique, c'est que ce titre-là, on le colle à peu près... Parce que y a le
oui, ils l'ont collé sur une série d'Asimov
La nouvelle originale, iRobot, a inspiré des Outer Limits. Il y a deux Outer Limits qui ont été
faits. C'est même pas Asimov qui a écrit, c'est une nouvelle d'un autre auteur.
C'est un auteur des années 30. Puis ça l'a inspiré, par contre, d'Asimov. Quand Asimov a lu iRobot, il a écrit Robbie, le premier.
Oui.
Puis toutes ces nouvelles-là qu'il y a dans iRobot, si j'ai bien compris... Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Les gens, des fois, ils aiment écouter, pas lire Wikipédia. Mais si j'ai bien compris, c'est que toutes ces nouvelles-là d'iRobot étaient espacées... dans le temps.
Okay.
Dans le sens qu'il avait été publié dans différents... C'est comme un recueil de nouvelles qui avait été publié dans différents magazines à différents moments. Donc, c'est pas comme s'il s'était mis à écrire un recueil de nouvelles qui avait sorti d'autres
shots. Ça a été packagé peut-être après. Mais pour en revenir au film en tant que tel, moi, qui connaissais pas vraiment l'univers d'Asimov, je suis beaucoup à la recherche. J'aime les gros films, blockbusters, hollywoodiens, mais il y en a une très, très faible quantité qui me plaisent vraiment. Je réussis à me laisser embarquer. Là, ça a été le cas. Là, j'ai mis mon cerveau à off. Là, j'ai pas peur de le dire. J'aime ça des films un peu cons des fois, mais qui ont un fond intéressant, qui l'exploitent pas nécessairement de la bonne façon. Mais c'est comme Le Pirate des Caraïbes, c'est comme National Treasure, gros films.
T'as-tu aimé Armageddon?
Non.
Mais t'as aimé Independence Day?
Oui.
Moi, je pense que t'as un bromance pour Will Smith.
Peut-être. Ben, la plupart des films de Will Smith, je les ai bien aimés, effectivement.
Ouais, j'ai dit que c'est quelque chose.
Les Bruckheimer aussi, sauf quelques exceptions. Mais non, c'est ça, il y a des recettes gagnantes comme ça qui...
Moi, j'ai préféré Armageddon à Independence Day.
Ah, mon Dieu. Ça va être un futur.
Ouais, ça va être un autre débat.
Moi, je pense que j'ai préféré... Je pense que ça va être un débat. Moi, je pense que j'ai préféré une réplique.
Ben, Roland Emmerich, en général,
Roland Emmerich est assez efficace aussi.
Moi, je le trouve...
Pas tout le temps.
Enfin, moi, j'ai un peu de mal, en général. Mais,
c'est qui Roland Emmerich?
Ben, Independence Day.
The Day After Tomorrow.
C'est le réalisateur de Independence Day?
Ouais,
excusez-moi. C'est pas mon genre de film.
Qui est pas sorti, qui a été tourné. Bref.
Qui était tourné à Montréal, ouais.
À Montréal, ouais.
Pour revenir à iRobot, est-ce qu'on rentre dans le débat ou tu voulais
faire juste terminer avec...
Vas-y, finis ça.
J'aime les films qui me laissent me transporter dans un univers qui fait pas tout à fait de sens nécessairement, mais qui demande pas beaucoup à l'intellect. Et ce film-là, pour moi, réussit à beaucoup de niveaux. Et c'est un des films que je mets sur ma liste à regarder au moins une fois par année. Parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait décrocher, parce que j'embarque dans quelque chose. Je sais que c'est loin d'avoir beaucoup de subtilité, qu'il y a des livres ou d'autres films qui font beaucoup mieux, mais le film pour le film, nonobstant Asimov, nonobstant un paquet de trucs, moi je trouve qu'il est intéressant pour un paquet de raisons aussi.
Il va falloir qu'on prenne bien. Du vin.
Il faut ouvrir le vin, parce que là, il faut rentrer dans le cadre.
Alors, avant l'extrait, on va annoncer ce que c'est. Alors, c'est un vin américain. Un Californien du domaine Terre Rouge et qui s'appelle Enigma.
Enigma.
Voilà.
Enigma.
Un vin blanc. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais un vin blanc. Voilà. Et puis.
Dans le film, il y a un énigme ou c'est vraiment pour le côté l'énigme tout à fait ça.
C'est pour le côté l'énigme.
Ok, c'est bon.
Voilà. Ça va dans le concept, hein, je veux dire.
Ah non, c'est bon parce que Enigma, je pense, que c'est le nom d'un ordinateur. En plus, je ne suis pas sûre.
Mais je pense que c'est même.
ENIAC.
Dans le bouquin, Denis?
Non, dans la vie.
Ah, ça aurait été énorme.
Mais autant dans le bouquin que dans le film, il y a une énigme par rapport à l'apparition de ce qu'on pourrait sacraliser comme l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait maîtrisé ni compris par l'humain. Donc, c'est une énigme en soi.
Ouais.
Même le premier robot qui se réveille, il comprend pas, c'est une énigme. Donc, c'est un peu le fond
de l'évolution des robots. C'est comme ça un peu que je l'ai vu. Donc,
c'est ça.
Donc voilà.
Je le savais, c'est la machine des Allemands. C'est la machine électromécanique portable d'origine allemande.
C'est pas ça, avec ça qu'ils codaient les messages.
Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ils n'ont pas réussi à la déchiffrer.
C'est bizarre d'appeler un Enigma, c'est un vin français. C'est Turing qui a réussi à la...
C'est un cépage français.
Mais ça vient de Californie.
Mais c'est un vin de Californie, oui. Alors, pendant qu'on goûte tout ça...
Écoute, ça a un lien avec la robotique d'une certaine façon. Ben, avec notre... En fait, c'est super bon parce que ça fait penser justement à comment elle s'appelle, Vicky. Quel
ouais,
nom!
Voilà.
Voyons, Vicky,
ouais.
En plus.
Oui, ouais, c'est bon. Allez, à votre santé. Cheers. Et on se voit un petit extrait.
Hello, doctor. Everything that follows is a result of what you see here. Is there something you want to tell me? I'm sorry, my responses are limited. You must ask the right questions. Why did you call me? I trust your judgment. Normally, these circumstances wouldn't require a homicide detective. But then our interactions have never been entirely normal. Wouldn't you agree? Got that right. Is there something you want to say to me? I'm sorry. My responses are limited. You must ask the right questions. Why would you kill yourself? That detective is the right question. Program terminated.
Quel magnifique extrait. Hein? Ça vous donne le goût?
Yeah, right.
Ouais. Non, moi, c'est vraiment... moi, d'entrer dans le film... Bon, OK, il y a la petite intro avec les trois lois de la robotique, machin, etc. OK, bon, ça plante le décor, d'accord?
Au moins, il aurait pu mettre les quatre lois de la robotique, ça aurait déjà été plus clair. Parce que
ça, quatre?
Ben oui, il y en a trois dans le roman d'Asimov, mais là, plus tard, Asimov en a ajouté une quatrième qui, là, fait du sens par rapport au film. Montrer à quel point ils sont pas... qu'ils étaient pas... C'est la loi qui dit que un robot ne la première t'as la loi zéro qu'un robot ne peut pas faire du tort à l'humanité ou pour par son inaction causer du tort laisser l'humanité en péril.
Ouais, en péril. Ouais.
Ouais, mais si, ça marche quand même.
Non,
le film
justement,
avec,
moi je trouve que c'est un des gros failles. S'il y avait eu cette quatrième loi là, déjà 80% des objections que j'avais contre la fin seraient probablement levées parce que là ça a du sens parce que l'idée en tout cas. L'idée de faire du mal à un robot étant abstrait, tout mal, donc, tu sais, genre, tu les vois, ils sont super violents à la fin. Mais écoute, je ne sais pas si on veut commencer par ça. Là, je suis en train de commencer par la fin. Okay. Là. Moi, peut-être qu'on veut, commencer.
Pour toi. Oui, alors, comment commencer? En quoi, en fait, le livre et le film sont si différents? Pour faire la base du débat, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ça, puis on pourra, après ça, tergiverser pas mal vers toutes les avenues possibles. Okay. Il y a deux raisons que les deux entités ont rien à voir. La première étant que dans le film, ils ont décidé que c'était une seule personne, la seule sur la Terre, qui a décidé qu'il y avait peut-être un problème avec les robots, alors que tout le monde prend pour acquis que c'est la perfection même et qu'il n'y a, aucun bug. Dans le livre, c'est pas mal le contraire.
Les robots ont même pas le droit d'être sur Terre.
C'est ça. Donc, tout le monde, il y a un tollé, il y a eu plein de problèmes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, il faut qu'il les teste. Et t'as les deux d'autres, Donovan et l'autre.
Ah, j'ai oublié son nom.
En tout cas, les deux genres de scientifiques qui travaillent pour la compagnie, qui sont là pour tester, puis à chaque fois, ils tombent sur des robots défectueux, puis qui leur fait vraiment comme réfléchir super à fond pour trouver une solution super géniale pour essayer d'être un petit peu plus rusé que les robots. Ce qui devient redondant, mais sympathique là, dans le livre.
Ouais.
Mais donc, de là, on a une différence majeure parce que le but du livre et du film, on part de complètement le contraire. Et l'autre, en quoi c'est pas une adaptation, je pense qu'ils disent quand même dans le film inspiré de, mais je pense qu'il faut...
C'est même pas inspiré, c'est
suggested by.
Ça veut rien dire en passant.
Ce qu'ont fait les scénaristes quand ils ont fait le film iRobot, celui qu'on a vu, et non pas l'histoire de laquelle c'est parti, je pense qu'il était peut-être plus proche du livre dans la première idée de faire un film avec ça, c'est qu'ils ont pris les grandes lignes de plein de belles idées qu'il y a dans le livre, qu'il y a peut-être une par chapitre, qui étaient des conflits avec les robots ou des situations un peu dangereuses pour l'humanité. Ils ont mis ça dans un shaker, puis après ça, ils ont décidé de faire complètement une autre histoire qui n'a rien à voir. Les personnages principaux sont plus du tout les mêmes. Il n'y a plus aucun lien à faire avec le livre, à part quelques grandes idées qui sont exprimées dans le livre, mais qui sont complètement reprises autrement dans le film. Donc, c'est vraiment légèrement inspiré de...
Je pourrais être même... Je vais te raconter une histoire qui était vraiment arrivée, puis tu vas voir, en fait, que c'est même pas ça. C'est que ce qui s'est passé là, par rapport à ce film-là, c'est que bon, pendant des années, les fans voulaient qu'on fasse un livre d'après iRobot d'Asimov. Puis il y a quelqu'un qui s'appelle Arlen Ellison,
ouais.
Qui avait écrit quelque chose, puis son projet n'a jamais passé à travers tous les Hollywood studios et tout. Ça ne s'est jamais fait.
Okay? Mais il a collaboré avec Asimov sur le scénario.
Oui, Asimov a été supporté par Asimov. Okay?
Ça, donc, c'est le scénario original qui avait
non,
été fait.
Non, ça, c'est un des scénarios, puis ça n'a jamais été fait. Ça, c'est okay, s'il existe un scénario d'iRobot, c'est ça. Attends, le film qu'on a vu, OK, lui, il n'y avait aucune connexion avec Asimov. À l'origine, le scénario était écrit par Jeff Vintert, puis c'était intitulé Hardwired. OK? D'après un livre d'Agatha Christie. Il était inspiré... Hein? Oui, monsieur. C'était okay. Inspiré d'un meurtre et mystère d'Agatha Christie. Et ça, c'est les bons bouts du film.
C'était structuré comme un meurtre et mystère d'Agatha Christie.
Inspired. Wow. Agatha Christie Inspired Murder Mystery. Okay. Oui, inspiré de...
OK, dans le style
oui, excusez-moi, vous avez raison. Dans le style de...
Ça se passait, je crois, dans une seule pièce, un truc comme ça.
Il y avait non, pas du tout. Là. Il y avait un seul personnage qui était bon, Dale Spooner.
L'enquêteur, ouais, Dale Spooner.
Puis il met plus l'accent ici, je pense, sur le scientifique qui était un reclus qui se suicide. Il y a Hector, le supercomputer, puis la femme s'appelle Flynn. Ok, elle s'appelle pas du tout.
Calvin.
Et donc. Ce projet-là a été acheté, OK? Et c'est plus tard, ils ont mis plein de monde dessus, ils ont réécrit les affaires. Ils l'ont acheté, puis ils ont mis assez vite, je pense qu'ils ont mis Alex Pryor sur le, comme réalisateur. Là,
il y avait un autre réalisateur avant.
Oui, mais en tout cas,
Brian Singer.
C'était Disney qui avait le projet.
Ça, quand 21st Century a acquis les droits, le scénario n'est toujours pas changé. Et c'est Alex Proyas qui est mis comme réalisateur. Bon choix.
Jusque-là,
pour
tout va bien.
Pour jusque-là, tout va bien.
C'est encore drôle. On va en parler d'Alex Proyas. Il a fait des très bons coups, mais des très mauvais coups dans sa carrière.
Mais je te dirais, je te mets juste en
mais
perspective.
Avant ça, il avait fait
je te mets juste en perspective de Crow, Dark City, un meurtre et mystère de science-fiction. Tu mets tout ce monde-là ensemble.
Avec l'ambiance noire, glauque.
L'ambiance noire,
il est bon pour
on va chercher et tout.
Même que Dark City, ça a mieux vieilli que Le Corbeau.
Ouais, faut que je le voie.
Après ça, il a fait Knowing. Alors, si vous voulez vraiment vous tirer une balle dans la tête, louez Knowing.
Nicolas Cage.
Ah non, mais ce film-là, tiens, pas l'air.
Ça fait très peur.
Façon,
okay.
Mais,
je veux en revenir à la genèse du film.
Vas-y.
Puis là, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'ils ont, commencé à réécrire. Ils ont engagé une équipe, ils ont commencé à réécrire. Ben, c'est toujours le même gars qui a été. Ils ont repris Jeff Venter.
Jeff Venter, on va revenir, ouais.
Et puis, ils ont commencé. C'est plus tard qu'ils ont incorporé les trois lois de la robotique. Ils ont commencé à réécrire ça. To meet the needs of big budget studio film. Okay? Alors, donc, ils ont transformé.
Histoire en grosse patente.
Et là, c'est le début de la merde.
Et oui, là, et puis, c'est plus tard, c'est encore plus tard, après avoir réécrit ça.
You gotta dumb down this script. C'est à peu près ça.
Mais c'est ça que je trouve fascinant.
C'est le discours qu'ils ont eu en meeting.
C'est que la dernière chose, c'est ça. Ils ont introduit les trois lois de la robotique. Ils ont remplacé Flynn par Sullivan Kelvin. Puis, ils ont appelé ça iRobot. T'sais? Donc, en gros, je veux dire, c'est même pas qu'ils sont partis du livre. C'est qu'ils ont comme. Coller le livre par-dessus.
Ouais, mais c'est un truc de marketing. Oh, y a plein de fans, c'est un livre super connu, machin, hein, ça va attirer du monde.
Mais j'avoue que d'avoir le même titre quand ça aurait pu. C'est quoi le pourcentage de lien entre le livre et le film? C'est quoi, 7,5% à peu près? Là.
Ben, c'est qu'il y a des robots, c'est une histoire de robots. C'est comme s'il fallait que toutes les histoires de robots s'appellent. Ben, c'est ça, s'appelle iRobot, ça tient pas la route.
Mais bon,
mais c'est un bon titre, soit dit en passant. Là, je veux dire, quand on parle d'intelligence artificielle, tu fais comme. Tu sais, en matière de réflexion, là, c'est très court, très efficace, puis ça dit ce que ça dit.
Hein. C'est vrai. Mais c'est juste. Ouais. Bon, en général, j'ai pas de problème à ce qu'un livre soit très différent de son.
C'est
deux.
Mais c'est même pas inspiré du livre. Mais c'est même pas inspiré du livre. On est d'accord. On l'a vu.
J'ai allé chercher en bas de 10% de matériel du livre pour le.
Qui a collé sur un autre scénario après. Tu sais, je veux dire, si tu pars du livre, puis que ça se transforme et tout, puis je trouve ça très drôle d'avoir lu ça aujourd'hui parce que je savais pas l'histoire, puis là, je me suis dit. Bon, ben, tu sais, ça saute aux yeux que c'est pas inspiré du livre. T'sais, c'est même pas une réadaptation, une réinterprétation.
Tu te demandes pourquoi, finalement.
Une inspiration. C'est même pas vaguement, métaphoriquement, comme le livre. Tu sais, comme tu peux voir des fois des adaptations. Je pense à une adaptation vraiment weird de. Bon, là, j'arrive pas à trouver. Dostoïevski.
Dostoïevski.
Que là, tu reconnais à peine, mais tu sais, t'as quand même les archétypes. Là, t'as pas vraiment les archétypes là-dedans. Tu as l'archétype de la psychologue, elle ressemble pas du tout à la fille qu'on a vue dans le livre.
Non, pas
qui était comme vraiment une nerd, pas du tout.
Le seul qui ressemble peut-être un peu, c'est le personnage qu'on voit moins dans le film, c'est Lanning.
Lanning, le professeur.
Parce que dans le film, on le voit post-mortem en hologramme 30 secondes, mais il fait à peu près la description qu'il y a dans les vapeurs. Mais tu sais, c'est far-fetched.
Puis, évidemment, il y a le mythe.
Même le grand boss, il n'y a plus trop rapport. Là.
Dans le livre, c'est juste pour finir, on va finir avec le livre, mais pour encore noter quelques autres différentes. Le livre avait été écrit par Asimov, entre autres, pour justement. Bon, c'est un truc de logique, hein, c'est des jeux, justement, c'est très subtil, c'est très intimiste, c'est des personnages, c'est intelligent. C'est le genre de science-fiction qu'on aime bien, c'est-à-dire qui n'est pas du tout basé sur les effets spéciaux.
Du livre,
oui, c'est
la grosse psychologie.
C'est la grosse psychologie. Oui, il y a des bouts, là, où est-ce qu'il y a les voyages spatiaux. Ah, tu l'as pas lu, ça, c'est le dernier. Oui, le voyage, ils font du voyage à. C'est les fameux warp, là, qui vont
Ah, mais non, mais commence à en parler dans l'avant-dernier de ça.
Oui. Ben, en tout cas, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui se passent dans l'espace, Jupiter et tout, mais en gros, l'histoire se tient comme les deux gars ou la fille qui réfléchissent pourquoi le robot, il se comporte de même.
Oui, il se pose vraiment des questions.
C'est comme Asimov, il s'est posé, c'est presque un livre mathématique ou logique, en fait, de logique. Il s'est posé trois postulats, puis comment il twist, puis il tourne autour de ce postulat. Puis des fois, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment créatif. Celui-là du robot qui se cache là, à travers les autres robots.
Ça, c'est une des plus intéressantes.
Oui, super bonne celle-là.
Ils reprennent un petit peu cette idée-là dans le film, mais de façon très légère.
C'est un clin d'œil à...
Il y a plein de moments dans le film. Il y a des petites choses qui arrivent, des petits moments comme ça qui sont suggérés, où ça devient intéressant, mais en général, après, ça tombe complètement à plat. Le truc qu'ils avaient soulevé à ce moment-là, la petite idée, le robot qui éprouve des émotions, enfin qui commence à pas se contrôler, etc. Typiquement la scène de l'interrogatoire, etc. Puis c'est vraiment juste survolé. C'est là où ça devient intéressant et c'est complètement survolé.
Bon, mais avouez une chose quand même, s'ils voulaient faire une adaptation vraiment du livre, qui serait.
Mais je parle même pas de ça. C'est même pas histoire de faire une adaptation fidèle au bouquin.
C'est un film d'action.
C'est un gros blockbuster d'action. En fait, ce que je voulais dire, c'est si on voulait faire une vraie adaptation du livre, ce serait pas un film commercial gros blockbuster tel qu'on l'a vu dans iRobot, qui n'a rien à voir avec le livre.
Non, ce serait du Blade Runner.
Ça serait un Blade Runner, ce serait un 2001 au-dessus de l'espace, ce serait un film culte.
Ça serait
pas nécessairement un film hyper grand public qui ferait full de fric au box-office. Là. Mais ça serait une œuvre grandiose.
Ben c'est ça. Ça serait quelque chose de beaucoup plus philosophique. On serait à la recherche de la philosophie. Puis pour justement
ambiance philosophie, questionnement.
Un des trucs qui est intéressant avec iRobot, c'est que Asimov l'avait écrit. Ça, j'ai lu ça quelque part, je ne me rappelle pas où, pas sur Wikipédia, mais c'est probablement sur Wikipédia aussi. C'est qu'il avait écrit ça parce qu'il était tanné de tous ces livres de robots à l'époque où est-ce que c'était toujours le méchant robot, le Terminator, Evil Robot, le robot qui détruit l'humanité. Puis, tu sais, c'est quand même pour un scientifique qui est intéressé par l'intelligence artificielle, c'est le postulat que les robots vont automatiquement se tourner vers l'homme. On pourrait en parler super longtemps de tout ça. C'est un thème qui revient souvent dans la science-fiction. On aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée du cerveau positronique, qui est un truc qui revient...
Déjà, posi, ça fait comme positif.
Ben,
donc,
les lois de la robotique,
cool,
c'est ça. C'était une recherche de présenter un robot dans un autre contexte. Puis le film,
c'est le premier qui
selon
fait,
moi,
détruit
ça.
Le premier qui a exploré ça. Comme tu disais avant, tout le monde voyait
l'exagence
et le robot et n'importe qui comme un gros méchant.
Oui, c'est vrai, c'est peut-être même, je ne sais pas comme, où est-ce qu'on, si on pourrait dire ça, mais c'est peut-être un des points de tournage justement de l'antagoniste de science-fiction qui devient positif, parce que c'est vrai que dans les années 50, autant les extraterrestres que les robots sont toujours...
C'est toujours des envahisseurs, des gros méchants, ça n'a pas changé beaucoup, on s'entend. Là. Mais d'ailleurs, faut-tu nier, le livre a été écrit en 1950, c'est ça?
Oui.
Colin, pensez-y, là, ça fait 63 ans. 63 ans. Et il a mieux réussi... jusqu'à un certain point, que le film, à certains niveaux, le film se passe en 2035. 2035, c'est à peine dans 20 ans, 22 ans d'aujourd'hui. Même si ça a été fait en 2004, c'est pas une excuse. Et regardez la technologie qu'il y a là. Moi, je suis pas sûr qu'on... Tu sais, mettons qu'on veut faire là, de la projection. C'est quoi le terme, Marie-Louise, déjà?
L'anticipation.
Tu vois, Asimov, en 1950, met son roman, je pense, il y a toute une période de temps dans laquelle le roman se passe, mais il va jusqu'en 2080 quelque, je pense.
Tu penses? Oui.
Oh, oui, il va 150 ans ou 130 ans dans l'avenir.
Que ça se peut.
Ce qui est beaucoup plus plausible que ce que le film a fait, qui se passe seulement 20 ou 30 ans après vraiment la date de tournage du film, puis que là, tout est changé, puis que toutes les villes sont gouvernées par un cerveau central, puis que tous les véhicules... Hey, non, non, regarde. Non.
Je sais pas, par contre...
S'il y avait mis ça en 2050, 2060, peut-être.
Par rapport à ça, moi, je suis peut-être un peu plus... je serais plus douce avec toi que le film. Vraiment, on n'a même pas les mêmes objections sur le film. C'est quand même impressionnant.
Non, c'est ça qui est drôle. Hein?
On est à l'opposé total. Parce que
il y a plein d'affaires qui me gossent dans le film aussi, hein, by the way. Il y a plein de clichés, ça, je suis d'accord avec toi.
Je te dirais que cet élément-là, c'est... si... On prend le postulat que le cerveau positronique existe, OK? Donc, il arrive à faire une intelligence artificielle. À partir du moment qu'ils vont le faire une fois, je pense que ça va aller assez vite parce que tout ce qui est la technologie d'avoir des bras qui bougent, des affaires de même, là, tu sais, le côté, peut-être même des faces, hein, on
des
en voit.
Des faces animées, ouais.
Ouais, des faces animées. C'est, on est assez avancé déjà aujourd'hui, là. On a pas mal tout ce qu'il faut pour le corps.
Mais ça s'en vient plus vite
mais
qu'on pense.
Mais pour l'intelligence artificielle, c'est là que ça blesse parce que de créer une intelligence, presque quasi humaine. Mais je pense qu'on en est loin aujourd'hui, mais si on se reporte dans 20 ans, ça va peut-être être amusant avec ce qui va se passer en robotique. Moi, je trouve que c'est un sujet fascinant. Conseil entre parenthèses, il y a Mitch Joel qui tient un blog sur la robotique maintenant. Mitch Joel étant un gourou du marketing québécois qui écrit des choses bien intéressantes, dont ce blog que je suis sur la robotique, pour ceux qui aiment ça.
Ah, tu dis gourou, moi, je vois quelque chose de négatif.
Non, gourou, ça peut être positif. Surtout en marketing, les gens, ils aiment bien...
Une sommité, on va dire.
Une sommité. un gourou positif. C'est vrai, parce que moi, avant, je voyais ça négatif comme gourou, mais c'est parce qu'en anglais. Mais c'est en anglais, je pense qu'il l'utilise plus de façon positive.
Oui, oui.
Peut-être c'est pour ça. Mais en tout cas, bref, ouais, je pense qu'on n'est peut-être pas si loin que ça. Que...
Moi, c'est plus les voitures, pas téléguidées ou télécommandées, mais qui sont régies par un cerveau central. Ouais. Il en parle depuis longtemps. Mais avant que ça soit de la réalité concrète de nos vies de tous les jours, même que la technologie, la teste, il y a à peu près 8 technologies différentes qui existent et qui testent, mais avant que ça soit vraiment widespread et que tout le monde ait une voiture compatible à ça, 2035, j'y crois pas.
Ben en tout cas, à ce moment, tu as la Google Car qui
mais ça, c'en est une parmi tant d'autres. Découverte, là, ne serait-ce qu'une émission qui vulgarise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui s'en vient. Quand ils parlent de technologies d'avenir, quand ils ont fait des émissions là-dessus, ils parlent vraiment de plusieurs technologies différentes de voitures qui se conduisent tout seul. Mais la technologie, elle existe, elle est pas loin d'être perfectionnée, mais avant qu'elle soit commune dans nos villes, dans nos vies de tous les jours, ça va prendre beaucoup de temps.
Mais des fois, c'est juste une question de, qu'est-ce qui va faire que tu as de la pénétration? Regarde Internet, c'est une question de demande, tu sais. Internet, jamais personne n'aurait pensé, puis ça existait quand même il y a 30 ans, là, Internet, mais jamais personne n'aurait pensé à quel point on serait autant connecté.
Mm-hmm. Ouais.
Je veux dire, c'est fou, même
un
depuis...
Un ordi, c'est 3 000 $.
Moi, je me rappelle...
Plus cher que tu peux te payer, sinon ça peut être 500 $. Un char, c'est 20 000.
En 92, mais à l'époque, un ordinateur, c'était 20 000 et plus, tu sais. C'était 50 000. En 80, dans les années 80, là...
Pourquoi on parle des années 80?
C'est ça, je veux dire, c'était la même question, tu sais. Mais comme en 92, quand
mais les chars seront pas 3 000 $ dans 20 ans, là.
Non, tout ce que je veux dire, c'est qu'en 92, quand j'ai vu... Ben oui, mais attends...
Surtout une Audi.
On se perd. Mais quand j'ai vu apparaître cette technologie-là, qui était l'Internet, tu sais, tout de suite, ça a fait comme « wow », tu sais. C'est génial. Mais même aujourd'hui, je suis étonnée de voir... Et on ne servait pas de courriel avant, là. Toi, t'es plus jeune, là. Tu te rappelles peut-être pas...
oui, je me rappelle. Moi, je suis embarqué sur Internet en 95.
En 95, t'avais quel âge en 95?
15 ans.
Ouais, ben 15 ans, embarqué sur l'Internet, c'est quand même quelque chose. Parce que jusqu'à l'âge de 23 ans, je veux dire, j'avais pas 22 ans, j'avais
non,
jamais
j'ai jamais travaillé professionnellement ou plus sérieusement
sans l'Internet. Moi, j'étais une précurseur. Moi, j'étais dans les premières. J'étais à l'Université McGill. Puis j'étais curieuse, puis j'étais journaliste au journal étudiant. Je m'appelle, j'étais dans les premières, dans tout le monde que je connaissais. Pas un peu, mais...
C'était des photos érotiques. Je prenais 3 jours à downloader.
J'aimais bien les histoires. C'était moins long. En passant, parenthèse, sur al.story. Ah, quel bon temps. Mais reste que... Une technologie peut avoir une pénétration très rapide. C'est tout ce que j'essaie de dire. C'est les cellulaires, c'est pareil, ça a une pénétration rapide.
Mais je pense que c'est plus difficile avec les voitures qu'avec les ordinateurs ou les cellulaires.
Ce que je suppose, c'est...
Vu la valeur des choses. Et l'infrastructure que ça demande. C'est, pour...
ouais, c'est ça.
Ça, c'est un des côtés.
Mais c'est une question de besoin. Un téléphone cellulaire, c'est fucking pratique. Ton char, c'est-tu vraiment pratique qu'il te conduise tout seul? T'sais, c'est bon pour l'humanité.
Parce que ton char normal qu'on a aujourd'hui en 2013, il n'est pas compatible avec ce système-là. Donc, à moins de le faire convertir, si telle chose est possible, il faut que tu changes de voiture. Donc, avant que tout le réseau complet de toutes les voitures soit compatible avec ça, quand tu parles de la voiture la plus cheap sur le marché qui est à peu près 15 000 $ ben, c'est ça. Faut donner le temps aux gens de finir son vieux bazou qui marche encore au mazout, là, tu sais. Avant de rentrer sa grille on the grid, là, tu sais, comme on dit ça, dans le tronc.
C'est un peu le problème avec Minority Report, non? Il n'y avait pas aussi un petit peu ça? Je sais pas à quelle année c'était censé se parler, je me rappelle plus. Censé se passer, pardon, le Minority.
Peut-être à peu près dans les mêmes temps.
À peu près plus ou moins pareil,
ouais.
Je l'ai pas revu depuis longtemps.
Ah, ça, c'est bon, Minority Report, j'ai hâte qu'on le fasse. Ça, j'aimais ça.
Ouais, j'adore.
Pas mal plus que justement, mais parlant d'effets spéciaux, come on, iRobot, c'est comme une dessin animé.
Mais regarde, Eta Digital Domain et Weta Digital qui sont derrière, c'est quand même deux grosses boîtes.
Je sais, mais on voit les effets.
Qui à l'époque étaient. Oui, mais maintenant tu regardes ça, évidemment, ça a un peu vieilli, mais pour l'époque, c'était quand même.
Ça fait presque 10 ans.
Pour l'époque, c'était quand même spectaculaire. Là, c'était beau.
T'sais. Écoute, je vois des films aujourd'hui, là, c'est toujours une question de budget. Hein. Si t'as pas trop de budget, t'es même pas nécessairement capable d'accoter en 2013 qu'est-ce que iRobot ont fait si t'as pas les moyens de le faire.
D'accord.
De ce côté-là, c'est propre quand même.
Ouais,
après,
mais moi, ça m'agace.
Les choix esthétiques, tout ça, sont discutables.
Ça, c'est un autre problème. Ouais. Ça, c'est Alex Proyas qui fait pas toujours les bons choix.
Ouais,
pourquoi Vicky ou...
Non,
plein
non,
de détails.
Après, plein de petits détails.
Ah, les placements de produits, genre.
Oui, bon, ben, ça,
c'est assez
clair.
Gros dans le film. Les costumes, des fois.
Non, mais moi, en fait, c'est Will Smith qui m'énerve dans ce film.
Non, il y a une belle scène qui est tout nue sur son lit, il est super sexy.
Mais oui, il est beau.
J'ai fait abandonner, j'ai dit ça, c'est un bon moment du film quand même.
Ah oui, hein, il est cut, là, puis tu le vois comme fou en chest, hein, Marie-Louise.
Ouais, tu
le
vois de partout,
tu le vois à poil sous la douche. En plus, il flex les biceps.
Ah oui, et moi, voir là, de ça, sous la douche, là, je serais un homme heureux. Hein. Tellement plein de désinvolture, il est à côté avec les gros pipes, ce style. Même pas de rideau, hein, ouais. Là. Écoute, là, la vie est trash à souhait.
Il y a un truc qui m'agace dès le début, dès que tu vois la première fois Will Smith, c'est genre...
Il est plus sexy que la fille en passant.
Il y a un côté « regardez-moi », tu sais. Ouais, elle qui est une ancienne mannequin en plus.
Non, mais déjà, c'est rare d'habitude dans les films, c'est toujours la fille qui est plus sexy, surtout les films de science-fiction et d'action.
Mais c'est vrai que là, elle est glaciale en plus, le rôle est tellement glacial. Mais il y a tout ce truc là, en plus le cliché du gars qui vit pas avec son époque, tu sais...
Ça, je trouve ça sympathique.
Ouais, mais ça, c'est tellement. Ou alors, tu sais,
t'as trouvé ça de trop gossant.
Je trouve que ça aurait pu être plus subtil que vraiment le gars qui a la vieille guitare, le vieux système de son, les Converse Vintage. Tu sais. Puis le gars super
cliché,
looké. Tiens, en plus, le détective super looké avec la petite tuque comme ça, sur le côté, et paf, le beau manteau machin. Ok, ils se sont fait plaisir au costume. Ouais, c'est Will Smith. C'est ce qu'il dit dans. Dans Men in Black, sauf que dans Men in Black, c'est très drôle. Tu sais, il parle à Tommy Lee Jones, puis il dit « You know the difference between you and me ?» Puis il pointe son costume, puis il dit I make this look good.
Mais ça, c'est super bien.
Tu vois, ça, c'est très bien placé dans un Men in Black. Bon, en plus, c'est de l'humour tout le temps dans Men in Black. Là, c'est pas le cas.
Et on va parler souvent de Will Smith maintenant que j'y pense. Men in Black, I Am Legend.
Ouais. Il est bon. Il a ce truc sympathique, tu sais. Il a, comme disent nos amis français, il a un capital sympathie.
C'est un bon acteur, il faut vraiment qu'il soit dans un bon rôle et bien dirigé.
Là, je le trouve juste un peu, je sais pas si c'est une histoire de direction, de la manière dont c'est mis en scène ou c'est découpé, mais c'est un...
C'est aussi les répliques constantes, les one-liners, je les trouve lourds.
Et puis,
non, mais ils étaient juste comme pas très drôles.
C'est genre sorry, I'm allergic to bullshit. C'est genre, ok, ça c'est de la blague de teenager, tu sais, c'est comme...
Enfin,
des trucs comme ça. Enfin bref.
C'est pour un public de teenager, faut dire quand même. Hein.
Moi, je suis un adolescent attardé.
Mais moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre le gros divertissement un peu attardé.
C'est un bel exemple.
Écoute, là,
il y a quelque chose qui me dérange parce que c'est trop prévisible.
Tu regardes ça, puis t'es comme genre, tu la vois venir.
C'est probablement ça.
Même si tu vois pas tout à fait la vois venir la fin que ça va être ou Vicky là, t'es même pas comme. intrigué quand tu t'en rends compte du reveal, t'es comme genre ah ouais, évidemment.
Puis
le gros truc philosophique, genre c'est parce que les êtres humains, vous êtes méchants, vous entretuez tout, c'est comme genre yak,
mais
ouais,
moi, je m'en
on
fous,
le sait
à la limite.
En plus, c'est tout à coup, tu
sors
Vicky.
Le scénario qui m'intéresse dans ce film-là, c'est dans quel monde il m'embarque. Parce que le scénario, il y a
Et comme, c'est trop lisse, c'est trop...
Je peux comprendre que vous embarquez pas aussi, mais moi, ça m'a capté.
Le scénario original avait peut-être une valeur au niveau de l'univers. Je pense que, comme quand je lisais le truc, l'idée que ça soit un meurtre et mystère autour de robots, il y avait quelque chose qui aurait pu être intéressant. Puis c'est l'idée que le robot va... En tout cas, tu sais, je veux dire, t'as une série de personnages, t'as une enquête, puis là, dans une enquête, ça aurait fait un peu à la Blade Runner, tu comprends? Là, le côté Blade Runner, il monte, tu remarques à fond dans un univers. Mais justement, tous les côtés scènes d'action, je trouve que ça minimise cet effet-là, parce que t'as raison, l'univers, il n'est pas du tout inintéressant.
C'est pas Blade Runner, c'est pas un film que t'as le goût de
l'univers, mais je viens de te donner raison que l'univers n'est pas du tout inintéressant. L'univers est pas du tout inintéressant, mais il est mal révélé. Parce qu'il est complètement dilué par des scènes d'action qui sortent de nulle part. Pourquoi ils démolissent la maison pour commencer?
Oh oui, bon, OK. Ça c'est des incohérences.
Qu'elle
démolisse à 8 h le matin ou 8 h le soir, il n'y a aucune, mais aucune. Ça, c'est une erreur grossière de scénariste qui a juste voulu créer de la facilité, mais c'est la pire gaffe.
En plus, dès que tu as vu le robot démolisseur, c'est bon, tu sais qu'il va se passer un truc. Le gars, il est tout seul dans la maison.
Il y a une baraque qui vaut à peu près 2-3 millions de dollars, qui est absolument magnifique. Il y a des boiseries partout. Je rêve. Je rêve d'avoir une baraque qui ressemble à ça. Ouais. Puis parce que le dos, il meurt.
Il détruit.
Bon, ils mettent la hache dedans. Oui, c'est tout à fait logique. Tout à fait. Élémentaire, mon cher Watson.
Mais c'est un futur où l'immobilier n'est plus géré de la même façon.
Ah ben non, c'est ça. C'est une picouille.
Ça va être remplacé par un truc ultra moderne. Mais ouais, non, enfin, c'est toutes ces choses-là que je trouve super agaçantes, quoi. Il y a un truc, Chia LaBeouf, tu sais pas pourquoi il est là.
C'est 2004, ça aussi, c'est dans ses premiers rôles. C'est avant
qu'il
soit Big Shot.
Ouais, il était pas connu.
Ah, mais je le déteste.
Je pense que
j'étais
en train de faire un
OK, t'as cette espèce de petit second rôle où tu te dis, OK, il va avoir une certaine importance. Ça va être, je sais pas, c'est genre un peu le gamin que l'autre a recueilli parce que je sais pas quoi. Non, tu t'entends plus parler de ce personnage jusqu'à la fin où il réapparaît, puis tout à coup Will Smith se sent obligé d'abandonner le truc super important qu'il est en train de faire pour aller désinguer le robot qui est en train de...
relief léger à la fin, qui vient à la fin du film et qui est gratuit et inintéressant. Il manque-tu une demi-heure dans le film qu'ils ont coupé, genre dans le director Scott qui...
Ou alors il y avait une meilleure demi-heure qu'ils ont remplacée par de la merde, à mon avis, mais...
Ça arrive, hein, des fois. Hein.
Ouais, mais...
toutes les scènes d'action m'ont comme complètement siphonné à un moment donné. Là. Je me suis sentie vraiment fée pour ça. Là. Je me suis dit, si tu fais un truc de gars, là, à un moment donné, t'es... Parce qu'une scène d'action est intéressante quand il y a comme un enjeu pour les personnages auxquels tu t'es attaché puis que tu sens, tu sais... Tu rentres dans l'espèce d'idée qu'il faut qu'ils sauvent puis qu'ils sont vraiment en danger. Là, c'était juste genre, ben oui, je sais que tu vas t'en tirer. Ouais. Là, je t'aime pas trop.
Ouais, mais déjà,
je rentrais même pas dans l'action.
Et c'est pas juste parce que c'est Will Smith, mais c'est aussi parce que le scénario est tellement cliché que tu sais ce qui va se passer, tu sais comment ça va finir. Tu sais, c'est ça le truc.
Ils sont dans les schèmes très prévisibles.
Mais tout est vraiment exactement comme plein d'autres films policiers où il est le seul à avoir cette croyance et personne le croit. Puis tu sais qu'à la fin c'est lui qui va avoir raison. Il se fait enlever son badge. Enfin, c'est tous ces poncifs que tu vois dans tous ces films de flics ou dans une grande partie, quoi.
C'est cliché.
C'est la recette, c'est l'école.
Mais ça marche. Box office, ça a marché. C'est ça qui est terrible. Olivier, là, on est dans le champ. Lui, il va faire de l'argent. C'est pour ça que je me suis associé avec toi pour faire des films.
Oui, je fais confiance. Faire des
non, mais comme je t'ai dit, le blockbuster.
Faire un film comme iRobot, je serais fier. C'est sûr que j'aurais tweaké une couple de trucs avec le recul.
Attends, je serais fier en crise pour le chèque de paye que j'aurai à la fin. On va mettre les choses au clair de tout le monde.
En même temps, c'est facile de chialer quand tu dis il y a quand même énormément de travail là-dedans. Puis à la limite, c'est une question de choix créatif. Puis quand tu fais un truc de cette ampleur-là, à la limite, tu le sais pas de quoi ça va avoir l'air en bout de ligne. Puis d'ailleurs, ça, c'est une affaire bizarre. Ça, c'est dans les trivia sur IMDb. C'est un des très rares films américains qui a pas eu de reshoot.
Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai.
Puis je me dis, c'est étonnant pour les Américains, les Québécois, on connaît pas ça, des reshoots, on n'a jamais les moyens d'en faire.
On a de la difficulté
à faire d'avoir...
Nous autres, c'est des no-shoots, des shoots. Si on était supposé shooter du matériel, on ne shoot pas.
C'est ben c'est ça. on coupe des affaires. Les Américains, c'est
Québec,
des experts
dans le reshoot. Il n'y a même pas de répétition
reshoot.
Avant le tournage.
Et ce film-là, ils ont fait zéro reshoot. Ça veut dire qu'ils ont canné le film, puis ça a donné ça. Fait que c'est assez exceptionnel.
Ouais, mais... Enfin, toi, tu voulais te voir encore un extrait?
Ben oui, parce que... Je sais pas, on jase beaucoup.
Ouais, non, on peut. Allez, c'est pas grave, on peut. Alors, un petit extrait.
Allez, Agent Spooner. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? I think you murdered him because he was teaching you to simulate emotions and things got out of control. I did not murder him. I mean, but emotions don't seem like a very useful simulation for a robot. I did not murder him. Hell, I don't want my toaster or my vacuum cleaner appearing emotional. I did not murder him! That one's called anger.
Pour moi, c'est quand même un film qui, enfin, ça pue la commande, quoi. Je vois pas Alex Proyas là-dedans.
Moi, je. Mais
c'est quoi la personnalité d'Alex Proyas?
Ben moi, je vois quelqu'un d'un petit peu plus, avec plus de quelqu'un qui a besoin d'un certain contrôle créatif.
Faut pas lui en laisser trop. C'est comme George Lucas, il peut faire des erreurs.
T'es méchant là.
Non, Alex Proyas là, sérieusement. C'est pas dans mes réalisateurs préférés, mais comme.
Moi non plus, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a une
Hollywoodienne, qui a fait des gros films. Qui a un monde. Ils sont capables de se planter solide.
Ouais. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça. Enfin, moi, je vois le film de comment. Je veux dire, Will Smith est producteur exécutif du film, donc ça veut dire qu'il a été. Il est
sur
place.
Il est producteur exécutif de tout.
Mais non seulement ça, ils ont réécrit des scènes pour lui.
Voilà, je veux dire, il a son mot à dire sur tout.
Ils l'ont Will Smithisé.
Voilà, exactement. Je suis sûr que. Oui, bah, c'est sûr. Je veux dire, ça, tu le trouves d'ailleurs dans le trivia ou sur Wikipédia, je sais plus, mais dès que. Je veux dire, les producteurs ont décidé que ça allait être un véhicule pour Will Smith. Je veux dire, le film a changé de direction complètement.
Mais moi, j'ai rien contre, personnellement. Mais je pense pas qu'Alex Proyas.
Non, mais moi j'ai rien compris non plus dans
en
le.
En fait, son premier, son meilleur film avec ce film-là. Selon moi.
Oh, je suis pas d'accord.
Je pense que Dark City.
Ouais, je pense que Dark City est beaucoup plus personnel.
Dark City, c'est le film où il y a peut-être justement eu peut-être le plus de contrôle créatif qu'il a pu faire.
Ouais, c'est ça. C'est comme plus.
Je te dirais que Dark City, en plus, je l'ai détesté quand je l'ai revu.
Mais c'est un film qui est rough, là. C'est
très particulier.
C'est comme La Matrice. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de La Matrice, mais c'est beaucoup plus dark et glauque. C'est pas un film facile, c'est un peu comme Brazil. Brazil, moi, c'est un film que j'adore détester.
Non, j'adore Brazil.
J'adore pourtant Terry Gilliam, mais c'est un film.
Mais tu vois,
je suis pas juste. Dark City, je l'ai pas détesté quand je l'ai revu. J'ai été déçue parce que je l'avais tellement aimé quand je l'avais vu. J'ai trouvé qu'il avait mal vieilli.
Mais tu vois, par exemple, aussi, ça a mal vieilli.
Tu vois, juste une petite parenthèse. Tu parlais de Matrix. Voilà l'exemple d'un film d'action, un blockbuster qui est plein. Je veux dire, qui est.
Oui, il est pas beau, Alex Proyas.
Qui est intelligemment fait.
Ouais, mais intelligemment.
Qui est intelligemment fait.
Il y a plein de détracteurs de La Matrice qui vont dire, oh non, non, c'est juste un mélange de plein de trucs de philosophie, de machin. Écoute, tu vas avoir des détracteurs tout le temps. Oui, La Matrice est probablement un petit peu plus profond qu'iRobot. Je sais pas du tout là-bas.
Pas qu'un peu, d'ailleurs.
Mais La Matrice va quand même
dans la facilité. Ça reste un film super divertissant, tu sais, je veux dire. C'est un film intéressant, divertissant, tu sais.
Et iRobot, s'il y avait voulu se forcer un petit peu au niveau du scénario, aurait pu faire un film beaucoup plus inspirant avec la même matière.
Hey, mais il n'y a pas fait tant de films que ça, Alex Proyas. Hein?
Non.
Non, mais son premier, son premier long métrage, c'est de
Je pense qu'il est barré, là, parce qu'il a vraiment
ben
fait
oui, mais non,
un flop.
Oui, mais attends, les bons réalisateurs qui ont fait des flops, ça manque pas. Parce qu'écoute, il a fait The Crow. Il a fait The Crow, Dark City, Garage Days, un documentaire sur INXS. Un documentaire sur INXS, iRobot, un film qui s'appelle Fat Gadget by Frank Tovey, qui peut-être pas un grand. Ça a l'air d'un petit film.
Je connais pas.
Ouais, je pense que c'est vraiment un petit film. Knowing.
Knowing, c'est horrible.
Ah, c'est affreux, Knowing.
Quand tu dis qu'il y a un film, il y a rien qui marche, mais il y avait tout pour marcher. Une histoire d'extraterrestre, il y a Nicolas Cage. Hey, donne-moi une histoire d'extraterrestre, Nicolas Cage, là, puis... moi là je suis comme un balai là. Lui,
moi je dirais qu'un des gros points faibles du film c'est Nicolas Cage là.
Nicolas Cage il est hot là dedans il est pourri.
Mais Nicolas Cage a été bon. Nicolas
ça fait quelques années qu'il est pourri dans Nicolas Cage là. Mais c'est pas Knowing qu'elle est.
Drive Angry.
Ouais, j'ai vu Drive Angry.
Moi, pour moi, ça va devenir un grand film culte.
Ouais, je le dis, c'est un peu. C'est un péché, comment on dit, un guilty pleasure. Péché,
ouais. Bon, là, on est rendu à Nicolas Cage. Ah. Revenons à iRobot. C'est un peu
Nicolas Cage, Will Smith, même combat.
Mais parce que Drive Angry.
Will Smith a beaucoup plus de qualité que Nicolas Cage.
Mais Drive Angry, c'est parce que ça se prend pas au sérieux. C'est ça qui marche.
C'est ça qui fait que ça marche. Parce que s'il se prenait au sérieux, il était foutu.
Mais voilà.
C'était un flop.
Bon, Kick-Ass, c'était bon. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas.
Kick-Ass, c'était bon.
Ça m'a pas marqué.
Non, mais je veux dire, il était bon.
Mais à part ça, les derniers.
Moi, ça m'a pas marqué.
L'autre film de Will Smith qui joue un super-héros bête, là.
Ah, Hancock.
Hancock, non, ça, je mélange avec ça. Fait que je l'ai pas vu.
Kick-Ass? Oui, mais t'aimerais ça, Kick-Ass, je pense, c'est ton genre de film.
C'est bien, Kick-Ass. Mathieu Vaughn.
Hancock, c'était particulier aussi. C'était pas un grand film, mais c'était...
Hancock, je trouve qu'il y a...
Un concept intéressant.
Ouais. Là, on n'a plus rien à dire sur iRobot.
Non, mais comme à chaque fois, on...
on
je pense qu'on allait parler de Sony.
On digresse un peu, mais après, on revient.
Parce que moi, j'aimerais ça qu'on parle de Sony.
Un peu de... Ben Sony, oui, alors absolument.
Sony, pardon.
Et moi, je dirais que la seule chose que j'aime dans le film... Enfin, pas la seule chose que j'aime, mais je veux dire, le gros point positif du film, c'est le personnage de Sonny.
C'est beaucoup par lui que plusieurs des idées d'Asimov vont être véhiculées.
Chaque fois qu'il est à l'écran et qu'il y a du dialogue, c'est là où ça devient intéressant.
Et je pense que c'est là que les questions philosophiques un peu esquivées par le film, mais sont toujours amenées par ce personnage-là.
Ouais, exactement. Mais de façon
et chaque
très
fois, après, malheureusement...
Ouais. De façon très
ça repart dans
puis,
le...
Moi, en ce moment, ce qui m'aide pas en plus à apprécier Sony et le film, c'est que je suis en train de me taper toutes les Star Trek Next Generation. Puis s'il y a quelque chose de vraiment bon dans Star Trek Next Generation, c'est le personnage de Data, qui est vraiment justement le robot. Ouais, c'est un robot très développé. Toutes ces questions philosophiques-là, ils vont les développer sur des épisodes combien? Puis là, je suis vraiment en train de me taper là, comme toute la série. Puis je vais te dire, là, tu vois ça, puis tu regardes Sony, puis t'es comme, non, t'as vraiment été inspiré de Data. Là, tu sens l'influence au bout sur certains petits détails.
Moi, je vois une super nouvelle série de science-fiction sur Télé-Québec qui s'appelle Les Argonautes. Non, je rigole, c'est un truc. C'est un truc que mes enfants regardent. Bref.
Il est sympathique, là. Mais il est pas profond.
Trippé sur sa performance, parce que ça, c'est des commentaires que j'ai eu beaucoup sur IMDb. C'est ah mon Dieu, c'était tellement génial ce que l'acteur a fait avec Sony, blablabla, machin.
C'est les dialogues qui lui mettent dans la bouche.
C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait à dire que la performance de l'acteur? Parce qu'il y avait trois grands acteurs qui avaient auditionné pour ce rôle-là, ou c'est ce que j'ai lu. Puis.
Moi, ça m'a pas rendu robotophile, Excusez-moi, juge la personnage.
En fait, c'est la question philosophique, c'est du jour où on va être confronté à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les vraies questions qui vont se placer devant nous? Comment la première intelligence artificielle va vraiment réagir? Est-ce qu'elle va essayer de compatir, d'empathir? Est-ce qu'elle va péter sa coche? Est-ce qu'elle va être méchante? Ça, c'est la belle question du film.
Moi, personnellement...
Que même Asimov n'a pas tant posé
j'aimerais
ça dans son
beaucoup,
livre.
J'aimerais beaucoup, d'ailleurs, on pourra s'en parler, j'aimerais beaucoup écrire un scénario là-dessus, parce qu'un des trucs qui m'énerve avec la notion d'intelligence artificielle puis la notion de robot, c'est qu'on ne la travaille jamais en tenant compte de la théorie de l'évolution de Darwin, qui est très, très importante, même pour les intelligences artificielles.
Ça, Asimov en parle dans son livre, l'évolution des robots.
Oui.
Quand même.
Oui,
De façon un peu plus...
Une espèce va évoluer, qu'elle soit artificielle ou naturelle, toujours selon sa capacité à s'adapter à son environnement. OK? Et la question est, est-ce que le fait que... Parce que c'est très narcissique de penser que l'intelligence artificielle va avoir un intérêt même à nous détruire, tu sais. Mm. Tu sais, faut que ça vaille la peine. Si nous, l'être humain, on s'en va s'entretuer, c'est parce qu'on est des êtres de territoire, puis notre tribu, c'est plus important de protéger d'abord toi, ensuite ta famille, parce que ta famille, tes enfants portent tes gènes, ensuite ta tribu. Tu sais, ça a été tout étudié, analysé, etc. Donc, notre côté guerrier...
C'est de l'instinct.
Il y a des raisons. Ben, c'est de l'instinct qui est lié carrément à la théorie d'évolution de Darwin. Il ne faut pas que tu cherches à 14 heures.
Non, c'est vrai, de vrai, de vrai.
Et donc, c'est toujours, on part toujours pour acquis que le robot va être méchant, mais ça serait vraiment intéressant d'y réfléchir de façon justement comme Asimov le faisait dans son livre, avec des postulats. Qu'est-ce qui motiverait les robots à nous tuer, t'sais? Parce qu'à la limite, ils s'en foutent de nous, puis ils évoluent d'une façon complètement indépendante, puis on devient une curiosité.
Ben, Asimov l'a décrit très bien. Je pense que c'est le troisième chapitre du livre, d'ailleurs, que c'est... je pense que c'est le premier robot, ou un des seuls du livre, mais j'ai pas lu les deux derniers chapitres, qui semble être proche de la vraie intelligence artificielle. Il se met à triper sur... Il est un peu sectaire, c'est comme le messager de Dieu. Il parle de master, parce qu'il considère... Il comprend que l'humain, il est inférieur à lui.
Ouais.
Fait qu'il commence à se crisser de l'humain.
Ouais. Il est très bon,
celui-là. Les jours sont comptés, mais il s'en fout un peu. Ça, c'est une belle idée, en maudit.
Il est excellent, celui-là. C'est celui qui a sa secte, là.
Il convainc tous les autres robots. Puis lui, là, il est parti sur une chire, puis il se dit, l'humain, là, j'en ai rien à foutre. Ça vaut pas de la merde. C'est vraiment inférieur à moi. Fait que je vais même pas, c'est ça, comme tu dis, je vais même pas passer du temps à me dire comment je vais le tuer, comment je vais m'en débarrasser. Je l'ignore parce qu'il est... Je sais que je suis 10 fois plus évolué.
Il va même pas contre les lois de la robotique comme ça. C'est ça qui est intéressant. Il est arrogant, pas agréable. Oui. Il respecte les lois de la robotique.
Il fait les mêmes erreurs que l'humanité, par exemple. Même maudite affaire. Hein.
On pourrait en parler un peu du livre aussi, justement, parce que je veux dire, on parle du film, mais il y a quand même des bons trucs. Toi, tu l'as pas lu.
Non, il faut que je le lise. Non, vous me donnez vraiment le goût de lire.
Les grandes idées qui sont véhiculées dans le livre.
Vous me donnez vraiment le goût de le lire.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Liar, le robot télépathe. J'ai trouvé que c'est tellement une bonne idée.
Ah oui, qui essaie de faire plaisir à tout le monde.
Qui essaie de faire plaisir à tout le monde, puis quand le sort, quand il pète sa coche parce qu'il...
Mais en fait, ce qu'il exprime dans le livre, c'est que les robots, du moment qu'ils vont commencer à toucher l'intelligence artificielle, vont être poigné avec les mêmes problèmes que l'humanité.
Mais les paradoxes.
À tout plein de niveaux. Tous les paradoxes au niveau de la personnalité. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que quand tu commences à avoir de la personnalité, tu peux faire des jugements de valeur.
Les émotions.
Tu commences à avoir des émotions, des problèmes, des conflits, des ci, des ça. Puis les robots sont poignés drette avec des affaires que l'humanité a vécues depuis super longtemps. C'est dans un contexte d'une machine en tôle. Puis nous autres, on est poignés avec eux autres comme... Des fois comme si c'était des enfants, des fois comme s'ils nous dominent.
Ben ça, il y a beaucoup de gens qui disent que quand les robots vont vraiment déjà les intelligences artificielles, elles existent en passant. Juste donner un exemple d'un phénomène, j'en ai peut-être déjà parlé dans le podcast parce que j'avais trouvé ça tellement bon. C'est que la bourse, c'est toutes des machines en ce moment. C'est quand tu fais des transactions en bourse, c'est toutes des machines qui font les transactions en bourse. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose de bizarre où est-ce que le système a complètement arrêté. Puis ça fait pourquoi? Puis il y a eu comme une erreur d'informatique quelque part, mais personne n'est capable. C'est rendu tellement complexe qu'il n'y a pas un être humain qui est capable de comprendre. C'est reparti après un certain temps. Puis voilà. Puis là, il faudrait que je retrouve l'histoire exacte.
C'est
mais
ça qui gère l'économie.
Ben, dans le sens...
Vicky lives.
Non, mais dans le sens qu'on est en train de faire des machines qui vont comme justement être tellement sophistiquées, mais on va les inventer avec nous. Ils vont travailler avec nous.
On va perdre le
contrôle. Sérieusement, là, entre nous, là, autour de la table, probablement absolument zéro, là, comprend, elle serait capable d'expliquer le fonctionnement d'un téléphone cellulaire. Là. Encore une voiture, c'est pas si pire que ça. Un moteur à combustion, ça prend comme une bonne heure à expliquer comment ça fonctionne. Puis toute la mécanique d'une voiture, après, mettons, 5 heures, tu comment ça fonctionne.
La mécanique, ça a toujours été plus simple.
Ça, je veux dire, j'ai étudié pendant 2 ans d'informatique, puis crois-moi, il y en a là-dedans des trucs complexes, là, tu sais, genre comme de ton code, ta carte mère, ton code de machine, tes processeurs, tout le kit dans un iPhone. C'est ça qu'on parle, en fait. Je lève ça étant mon iPhone pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, étant tout le monde. Mais bref, c'est comme, on est déjà dans un système où est-ce qu'on ne comprend pas les machines, puis on est complètement dépendant des machines à bien des égards. Donc, c'est une coévolution, tu sais, puis déjà peut-être que, là je rentre dans de la philosophie, mais déjà quand on regarde l'Internet puis toutes les collections qu'il y a sur Internet, les gens voient une espèce d'immense neurone tellement c'est gros. Il y a peut-être déjà une forme d'intelligence, une méta-intelligence qui fonctionne puis auquel on n'a pas accès parce que c'est juste pas possible pour nous d'y avoir accès, c'est qui se développe avec ces machines-là. Alors de là à penser que c'est un danger pour nous, c'est comme une évolution, moi je pense. Hein. C'est l'espoir de l'humanité, selon moi. Pour,
l'espoir ou le désespoir?
Mais non, c'est pas l'espoir de l'humanité. C'est la seule manière qu'on peut envisager une vraie exploration spatiale puis dépasser les limites de la Terre. Okay, ça va être par des machines.
Ça va être par des machines.
À cause des radiations, à cause du temps que ça prend pour voyager. Ouais.
Je sais pas si c'est scientifiquement prouvé ce que je dis, là, mais il me semble que j'avais lu un truc comme quoi envoyer des humains pour un voyage habité vers Mars. Il y a tellement de radiation dans l'espace, puis on n'est pas encore capable de faire un vaisseau super bien shieldé, que c'est un voyage déjà, c'est one way, ça prend 3 ans s'y rendre, puis il y a des bonnes chances que rendu là, juste le temps du voyage dans l'espace, t'as pas mal 90% des chances d'avoir pogné le cancer.
Ouais.
Parce qu'il y a eu trop de radiation dans l'espace.
Les gens qui vont aller sur Mars, les premiers, là, si on trouve pas une solution à ça, ils sont
foutus.
Ils
là.
Sont condamnés, c'est une mission suicide.
Mais il y a pas un projet, justement, c'est ça, c'est comme un genre reality show un peu trop ambitieux, puis ils veulent envoyer du monde, mais c'est un one-way trip. Puis tu t'en vas sur Mars, puis tu t'en vas là pour fonder une colonie. T'es sûr que tu reviens pas.
Ouais, puis t'es sûr que tu risques pas à fonder une colonie, là.
Ouais, t'as peut-être même pas le temps de... tu fasses des bébés en chemin.
C'est super glauque, là. C'est super glauque, ça.
Ouais, là, t'es dans ouais, c'est vraiment morbide, là.
Ça, les chances sont faibles, hein.
Ben déjà, probablement qu'ils vont commencer à partir puis qu'il va se passer un truc. Ça va déjà être boboche parce qu'on sait que les budgets sur les réalités show en général, c'est so-so, là. Donc, leur vaisseau spatial, déjà,
je pense qu'ils
risquent de brûler dans les airs, le vaisseau spatial, avant de se rendre bien loin. Okay.
Ah, d'ailleurs, en parlant de...
Le pire, c'est que ça va intéresser plus personne après 3 mois, ce truc-là, tu sais.
Ça me fait penser à un pilote qui a pas eu de suite, évidemment. Enfin, c'est comme une espèce de téléfilm qui était aussi un pilote d'une possible série qui s'appelait Virtuality. Où c'était une gang qui sont sur un vaisseau spatial pendant un certain nombre de temps et qui sont dans un genre de reality show, enfin qui sont filmés en permanence par des caméras et tout. Et c'était, je crois, Ron Moore de Galactica qui avait travaillé là-dessus.
Ah bon?
Et soit dit en passant, il paraît que Ron Moore aussi était dans la liste des... D'ailleurs, il est toujours sur IMDb.
C'est pas le producteur, ce Ron Moore?
J'étais le créateur de la nouvelle série de Galactica.
C'est ça, le producteur, créateur.
Mais, donc, ouais, c'est ça. D'ailleurs, non, mais il y a un lien avec. En plus, il y a un lien entre Ron Moore et
iRobot.
Et iRobot, parce qu'il y a un projet qui n'a jamais abouti pour l'instant de iRobot 2. Et lui était dans la liste des réalisateurs possibles.
C'est vrai?
Oh my God.
Si tu vas sur IMDb, c'est lui qui est dans. Évidemment, tu n'as aucun
et
détail.
Et Ron Moore qui est très impliqué dans Star Trek Generation.
Voilà,
aussi.
En plus, tout se recoupe.
Les robots de Battlestar Galactica étant des méchants robots.
Si vous avez l'occasion.
Mais beaucoup plus intéressants. Dans Battlestar Galactica, les méchants robots sont intéressants.
C'est clair.
De toute façon, ça vient d'une race de. Ah oui, dans Battlestar Galactica, ce n'est pas des lézards, c'est des vrais robots.
Ouais.
Dans l'original, mais c'était bien l'idée dans l'original que les. Moi, j'aimais ça.
Les Silent étaient des extraterrestres.
C'était une invention d'extraterrestres. C'était des robots inventés par des extraterrestres qui avaient détruit les extraterrestres. Je trouvais que c'était une meilleure idée, ça. Ouais, ça me plaisait bien parce que je tannais de l'idée que c'est toujours l'être humain qui se trouve dessus. Là.
Ouais. Après, s'il y a un iRobot 2, moi, je veux réaliser le 3. Notez, Marie-Louise. Même si c'est un straight ou DVD. Là,
c'est seulement si Will Smith il joue dedans.
C'est quoi le nom
du fils
de... Puis que
je peux toucher ses pectoraux en audition.
C'est quoi le nom du fils de Will Smith?
Jade Smith, je crois que c'est comme ça, non?
Jade Smith.
Non,
mais quand même, dedans. Là, il...
Le temps qu'on le fasse, c'est lui qui joue dedans.
En plus, il ressemble tellement à papa que...
Ouais.
Pensez-y, là. Avouez, là. Yeah, mais...
Si ça peut m'amener 150 millions de dollars en box-office...
Tu vas rencontrer Will Smith. Il va juste venir comme dropper son fils à Jade.
Ah, okay.
Mais tu sais, là, on parlait d'intelligence. À part ça, le virtuality,
j'ai pas de fétiche
sur
Will Smith,
le virtuality, ça serait intéressant de voir ça une fois, peut-être. Moi, je l'ai.
Ouais, ok.
Mais
tu le suggères
trouver,
dessus,
mais...
comme dans notre...
Non, ouais, non,
c'est pas le nom d'un film avec Denzel Washington, ça aussi, qui était peut-être dans les années 90.
Virtuosity.
Oh my God. D'ailleurs, Denzel Washington,
je n'ai jamais vu.
Qui était super... Et
là,
qui avait...
je pense qu'on se dissipe vraiment.
Non.
Denzel Washington, ils lui ont offert le rôle...
Mm-hmm.
Le rôle principal, celui de Will Smith, dans iRobot. Et il l'a refusé parce que dans... Virtuosity, en fait, au début, il avait accepté, mais il s'est rendu compte qu'il jouait à peu près le même rôle que dans Virtuosity. Donc, il finit par choquer.
C'est excellent parce qu'on n'arrête pas de diverger, on revient toujours à iRobot.
Merci, IMDb et Wikipédia, pour tant d'insights.
Non, mais c'est drôle parce qu'on fait un super beau podcast. On fait un super beau podcast grâce à Wikipédia et IMDb, genre un truc. Dans les années 80, quand t'écoutais des shows de cinéma et tout, t'étais comme, waouh, ils connaissent des choses et tout. Nous, on a l'air super.
Non, on
genre,
connaît plus rien.
Parce qu'on lit la page Wikipédia.
Ça prenne la comme Roger Ebert. Puis,
non, mais
ouais,
c'est pas vrai.
L'autre,
parce...
Les deux qui sont morts, là. Il en reste plus un.
On connaît beaucoup de choses.
Tout thumbs down.
En fait, on connaît beaucoup de choses. Puis c'est juste de faire les liens, on est capable. Mais je trouve ça très drôle.
Mais en tout cas, on parlait de réalité. Excuse-moi, c'est le vin qui commence à faire... Le vin qui est sympathique, d'ailleurs.
Oui, très bon.
Qui commence à faire effet. On parlait d'intelligence artificielle. Et c'est là aussi que je trouve vraiment dommage que Vicky ait pas été... C'est genre, tout à coup, boum, à la fin du film, c'est...
Vicky versus Hal, là, t'es loin, là.
Ouais, bon,
déjà,
coup, c'est le méchant,
data,
alors qu'ils auraient pu...
Puis...
Non, mais même, je veux dire, ils auraient
elle
pu...
Elle est sous-présentée, là.
C'est mais comme... c'est ça. On t'en parle au début. Après, OK, elle fait deux, trois petites apparitions comme ça parce qu'il y a besoin, parce que là, voilà. Et après, à la fin, boum, c'est elle le grand méchant. Ça aurait été tellement plus intéressant si tout au long du film, tu développais un petit peu ce...
Christie ou Columbo, c'est toujours le même pattern. On te présente le coupable au début. C'est le dernier coupable que tu crois être
Je suis complètement d'accord.
C'est dans le pattern de Whodunit, là, ils ont très bien respecté les règles. Et Agatha Christie...
Non, Agatha Christie, c'est plus...
Non, pas toujours fait mieux.
C'est plus subtil que ça.
Pas tout le temps.
C'est pas nécessairement... C'est des personnages... Dans Agatha Christie, je trouve que les personnages sont tous un petit peu louches, avec des fois, il y en a qui sont le moins, puis
oui, parce que dans le robot, on s'entend, on a une seule alternative, puis c'est le boss de la compagnie, il n'y a pas d'autres possibles suspects.
Puis on sait que c'est pas lui nécessairement.
Ben non, on l'élimine assez vite, mais on sait juste pas c'est qui, tu sais.
C'est un des trucs que je voulais dire par rapport au livre tantôt. C'est la méchante compagnie.
Ouais.
Dans le livre, c'est pas du tout la méchante compagnie.
Non, mais de nouveau, c'est un autre cliché. C'est
en 1950,
il n'avait
pas encore capté le gros monopole de la seule compagnie qui va rester en bout de ligne, comme qui va conquérir l'univers.
Je pense pas. C'est vrai que c'est un thème plus des années 80. C'est vrai, c'est le cyberpunk qui a amené ça avec Neuromancer. Blade Runner était un exemple.
Mais c'est pas la méchante compagnie.
C'est plus des années 70.
Ouais, mais là, c'est pas tellement la méchante compagnie. C'est l'intelligence artificielle qui gère tout.
Ouais. Mais le gars, il est comme
qui fait croire que c'est la méchante compagnie.
Le propriétaire, c'est toujours Will Smith qui dit t'es un riche, tu t'en profites. Ouais. Puis c'est un méchant. Puis c'est clair que c'est un méchant. Il y a pas de...
C'est à cause de toi que les menuisiers perdent leur job.
Ouais.
Ils font pas des chaises assez vite.
Ça, là, c'était tellement... C'était comme genre...
C'est lourd.
C'est des répliques de merde, mais c'est satisfaisant.
C'est un dialogue de merde. C'est vraiment...
C'est pas pire que National Treasure.
Mais moi, j'ai pas aimé National Treasure.
Moi, j'ai beaucoup
aimé.
Ou le premier Pirate des Caraïbes. Mais ça, c'est dans...
Mais moi, j'aime bien le premier Pirate des Caraïbes.
C'est une catégorie à part.
La putain d'histoire. J'en ai un autre. La putain d'histoire, le traumatisme de Will Smith pour le pourquoi il aime pas les robots.
C'est dans le livre, ça?
Non, c'est pas dans le livre. C'est tellement mauvais. Non,
je suis pas d'accord.
Ah oui, je vais te dire pourquoi c'est mauvais. Parce que c'est super pas réaliste. Ok, t'as le gars qui est en train de crever dans un char, il y a la petite fille qui n'est pas sa fille en passant, c'est la fille de quelqu'un d'autre. Le robot décide de le sauver lui, OK? Puis je te jure que dans la vraie hostie de vie, 99,9% des gens qui sont dans un char, ils s'en calissent de la petite fille à côté, OK? Parce que là, il est là comme genre, it was the baby of someone, he should have saved her. C'est comme, non!
Oui, mais t'es dans
c'est
un blockbuster, t'es dans un blockbuster de Will Smith.
J'y crois pas! C'est comme genre, t'es comme,
les bons sentiments.
On veut pas au moins que ça soit sa petite sœur ou quelqu'un de significatif. C'est une pure étrangère. C'est quoi? C'est parce que c'est une petite fille, il faut la sauver, elle, le robot. Puis le pire là-dedans, robot n'aurait pas existé, il était mort toutes les deux, tu sais.
Ouais.
Donc, il est fâché au robot, OK, parce qu'il a comme augmenté le taux de survie d'une situation où est-ce qu'il n'y avait juste pas de survivants. Lui, il ne pouvait pas la sauver, la petite fille. J'écoutais ça, là, d'elle, c'est comme, voyons donc, c'est-tu niaiseux? Comme c'est pas dur de te forcer pour que ça soit un minimum crédible. Toute sa haine des robots à part de cet événement-là auquel il rêve, puis qui nous mettent comme non-stop. Voyons donc.
La vache, le vin blanc, ça te...
Oublie le premier niveau. Là. C'est la seule place à peu près où il y a un deuxième niveau dans le film. C'est qu'il nous fait comprendre à ce moment-là que...
Will Smith a un cœur.
Non. Qu'il y a une faille...
Non, il a pas de cœur.
La logique du robot.
Ouais, moi, je
non,
l'ai,
il y en a
moi,
pas. Il y avait 45% de survie de Will Smith. La petite fille avait 11% qui a survécu.
Parce qu'elle
bon
était
choix.
Plus creuse.
Mais oui, il a pris le bon choix. C'est correct qu'il ait sauvé celle-là qui allait survivre.
Oui, oui. Puis c'est ça, c'est Will Smith qui a tort. C'est ça qui est intéressant en plus.
Moi, je suis d'accord.
Fait que tu vois la faille du robot. Puis lui, il a identifié comme, oh, OK, il ne vit que de logique, ce robot-là. Ouais. Fait qu'il fait des calculs, il fait des... suppositions, il fait des proportions, il fait des machins, puis il va agir selon ces pourcentages-là qui se créent dans son cerveau.
Ouais.
Fait que c'est de la logique, il n'y a pas de sentiment. Fait que là, Will Smith réalise que quand il n'y a pas de sentiment, puis quand il n'y a pas de gros bon sens, finalement, ben la logique a beaucoup de failles.
Ben, moi, personnellement.
Et c'est ça qui vit après dans le film.
Personnellement,
moi, ce principe-là est bien exprimé.
Okay, personnellement, je suis peut-être un robot qui n'a pas d'émotion et tout, mais.
Probablement.
Je considère que le robot a pris la bonne décision parce qu'un Will Smith est sexy.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Tu dis ça dans le podcast. C'est juste qu'à un moment donné,
Mais Will Smith, c'est un lover.
C'était même pas convaincant. Il aurait pris à la limite un bébé, c'est plus cute, là. Je veux dire, limite, là.
Si ça avait été un bébé chat, là, moi, j'aurais été en tabarnak. J'aurais été plus en tabarnak que si ça avait été une petite fille.
Par exemple, un chihuahua, pas un chihuahua, mais un petit chien cute.
Même si ça avait été, comment il s'appelle le chat qui a un esti d'arbête, là? Angry Cat, là.
Oui, je vois le cas de lui,
On sait qui tu parles.
Grumpy Cat.
Même Grumpy Cat aurait eu plus ma sympathie que la petite fille, là, t'sais.
C'était juste super maladroit parce qu'il n'y a pas d'enjeu.
Je pense qu'il est temps d'arrêter.
Je pense qu'au début, dans le scénario, c'était comme...
Non, mais c'est vrai que c'est une scène de pire bon sentiment hollywoodien. Là.
Pire bon sentiment, mais qui ne se tient même pas.
C'est le héros familial, classique, cliché.
Ça aussi, ça fait partie des clichés. Mais encore, mais celui-là, au moins...
Il avait commencé à faire une scène où Will Smith, il sauve la petite fille, il est tout content. Après ça, poum, il y a l'accident. Puis là, ils se sont dit, c'est trop grossier, ça ne marche pas, on va juste rendre ça pire.
Là, je suis d'accord avec Olivier. Au moins, ça amène... une question intéressante par rapport justement à la logique et le choix, le machin.
Oui, mais là, moi,
c'est ce que le livre questionne tout le long. C'est que les robots sont faits de logique, mais leur logique est constamment défaillante pour toutes sortes de raisons différentes. C'est ce qui est magnifique du livre.
Oui.
C'est ça qu'ils ont récupéré dans le film. Moi, c'est une des choses qu'ils ont récupéré dans le film.
Oui, mais c'est parce que
c'est vite enterré par la scène d'action suivante. Mais...
Mon but, je pense que je me répète, c'est juste que moi, j'y crois pas. Je veux bien, je serais d'accord avec vous si j'avais comme le sentiment que le robot avait fait le mauvais choix d'un point de vue émotif. Mais moi, d'un point de vue émotif, je suis pas capable de me dire que le robot a fait le mauvais choix. Je suis juste en train de me dire...
Parce que c'est une heartless bitch.
Peut-être que je suis une heartless bitch, que j'aime pas les enfants, puis que je préfère qu'on sauve
des
Black Americans, je sais pas, mais il me semble que, voyons, il allait crever tous les deux, il en sauve un, puis sauf celui qui a plus de chances de survie, 10%, 45%.
Mais Will Smith, c'est un lover, c'est ça, puis...
Mais ouais.
Enfin, valeur américaine, hein?
Tu peux pas tuer Will Smith.
Non, tu peux pas tuer des enfants dans des films américains.
Ouais, je pense que juste la petite fille, je la trouvais pas assez petite fille cute, là. Tu sais, s'il y aurait pris une
petite... Si ça avait été celle qui jouait dans Little Miss Sunshine, là, t'aurais eu un avis contre... Comment ça s'appelait, là?
Potentiellement, ou celle qui faisait... comment...
La petite...
Je m'en rappelle pas de son nom, mais...
Jean-Benet Ramsey, là.
Effectivement, ils ont mal cassé la petite fille. Oui, la petite fille me faisait pas brailler.
Ça avait été plus cute, hein? T'aurais pas eu le même speech.
Ouais, ouais, peut-être, c'est ça. C'est un manque de cuteness, comme tout le monde dit. C'est comme le sexiness de Will Smith contre la cuteness d'un enfant. Il faut quand même que ça soit très cute.
On vient de trouver la fête de Marie-Louise.
C'est ça, le film est trop oversexed. Du coup, l'aspect enfant, machin, là, ça marche plus.
C'est ça, dans ma féminité, qui devrait être très axée sur le cute petit et tout, il fallait qu'il y ait vraiment un plus... Ouais. Il fallait que ce soit plus fort, tu sais. Ouais. D'accord, tu sais.
Ouais. Bon.
Voilà.
Ça conclut bien.
Un petit mot sur la fin du film. Un dernier petit extrait ou puis on parle un petit peu de la fin du film?
Allons-y.
Allez,
Vicky.
Un dernier petit extrait.
The other day at the station, you said you had dreams. What is it that you dream?
I see you remain suspicious of me, detective.
Well, you know what they say about old dogs.
No, not really. I had hoped you would come to think of me as your friend. This is my dream. You're right, detective. I cannot create a great work of art. This is the place where robots meet. Look. You can see them here as slaves to logic. And this man on the hill comes to free them. Do you know who he is?
The man in the dream is you.
Why do you say that? Is that a normal dream?
I guess anything's normal for someone in your position.
Thank you. You said someone, not something.
Sonny, do you know why Dr. Lanning built you?
No. But I believe my father made me for a purpose. We all have a purpose. Don't you think, detective?
Moi, j'ai juste une petite chose à rajouter. Je trouve intéressante parce que une question qui a été abordée dans ce film-là, probablement dans le livre aussi, encore mieux, mais qui, dans des films similaires, n'ont pas vraiment abordé. Mettons qu'on compare avec La Matrice, parce que c'est quand même un exemple et
la Matrice,
beaucoup de corrélations.
La Matrice, elle apporte plein de choses, puis tu comprends rien.
C'est que il met vraiment l'intelligence artificielle comme individu et le fait rêver. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... Alors que le cerveau qu'ils ont créé pour l'intelligence artificielle du robot est quelque chose de très, très contrôlé, là, il y a une perte de contrôle totale. Donc, il y a une belle idée là, qui pourrait être encore plus exploitée dans un autre film, un autre livre, machin.
Nouveau,
qui l'a peut-être été dans plein dans d'autres livres.
De nouveau, c'est une belle idée survolée.
Oui, c'est ça. Mais Asimov, il a écrit beaucoup, beaucoup de livres sur les robots et l'intelligence artificielle. Je les ai vraiment pas tous lus. Donc,
non, moi non plus, j'en ai lu un ou deux.
C'est mais le fait qu'un robot rêve, donc qu'il perd le contrôle et qu'il va dans son inconscient artificiel, je trouve que c'est une crise de belle idée.
Ça serait un film qui reviendrait au thème du rêve. C'est toute la notion de qu'est-ce que...
Ben, le rêve d'un robot, pas d'un humain.
Ben, non, aussi,
d'un cerveau ultra-logique.
Okay, mais tu sais, c'est quoi le titre original de Blade Runner? Est-ce que les androïdes rêvent de
moutons électriques?
De moutons électriques. Puis je pense que
ça va tout à fait dans cette veine-là. Oui.
Puis c'est un bon thème, mais c'est le thème aussi pourquoi nous on rêve. Puis c'est intéressant parce que dans un des Star Trek, c'est un thème qui est abordé. C'est bon, la Star Trek Next Generation, en parenthèse, pour la fille qui tape ça. Il va falloir qu'on fasse
un épisode là-dessus.
C'est clair, faudrait se faire les 10.
Il y a 9 saisons à se taper, là.
Non, 7, mais ce qu'on pourrait faire, c'est les best... Non, on pourrait faire un best-of. Moi, j'avais écouté les 10 meilleurs, OK? Puis ça, on se fait juste les 10 meilleurs.
Ouais, ça
serait bon. Surtout que chaque épisode se tienne. Donc, on pourrait décider, on pourrait faire un...
Mais bon, les 10 meilleurs, selon qui aussi? Parce que...
Il y a des listes et tout. Moi, les ayant écoutés, je pourrais déjà évaluer la validité des listes. Ou on pourrait juste aller sur IMDb, ceux qui sont les plus hauts cotés. Ça nous donnerait une indication. Ça pourrait être une façon de le faire. Mais au niveau de ces trucs-là philosophiques, ils aiment bien analyser ça. Puis il y en avait tout un épisode sur la pertinence du rêve, où est-ce que tout l'équipage ne peut plus rêver parce qu'il y a une intelligence extraterrestre qui envoie un message de détresse qui bloque la zone du REM, puis ils s'entretuent, là, ils deviennent complètement fous. Là, ils deviennent... parce qu'ils ne peuvent pas rêver, ça, c'est des détails amusants. Ça, c'est des bons sujets de science-fiction.
Il y a aussi... Pardon, on ouvre la deuxième bouteille de vin? Bon, c'est la fin du podcast, mais c'est pas grave, on va quand même ouvrir la deuxième. Je le dis juste en passant, c'est un vin rouge, cette fois, sud-africain, qui s'appelle Renegade. Enfin, c'est un Ken Forrester, et le nom de ce...
Qui va bien avec
s'appelle Renegade, et c'est un 2006, là, qui va bien avec le personnage.
Renegade, ça va être sud-africain. Sud-africain, c'est là que deviennent Die Antwoord, le band.
Oui, bien sûr.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube, tapez Die, D-I-E, Antwoord. Je vous laisse deviner comment ça s'écrit.
Antwoord.
Et vous allez faire une découverte assez magistrale ce soir. Alors, je vous laisse ça comme...
Die Antwoord, OK, je ne connais pas.
Il ne faudrait pas mettre ça sur notre Facebook.
On va faire découvrir ça à Nick.
C'est Emeline qui m'a fait découvrir ça.
C'est quelque chose.
Ah, toi, tu connais? OK, moi, je connais pas. Donc voilà, allez, un petit coup de rouge pour terminer ce podcast en beauté.
Je vais te le montrer, peut-être que tu vas se mettre quelque chose.
Oh!
T'allais dire quelque chose, j'ai pris la parole pour...
Je te sers aussi. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a des petits détails intéressants aussi, de nouveau, qui sont très survolés.
C'est un très bon.
Notamment par rapport au... Tu sais, ils font une allusion au fait que, tu sais, les robots, quand ils se trouvent en groupe, ont des comportements étranges, tu sais, des choses comme ça.
Ça, c'est dans le livre.
Mais là aussi, tu vois, de nouveau, ils jettent des petites idées comme ça, mais sans aller plus loin, quoi. C'est comme... Et là, c'est extrêmement frustrant.
Mais ça serait le fun qu'il y ait une histoire, justement, que tu vois, avec les trois lèvres. Ça serait le fun de reprendre les trois lèvres de la robotique, puis en fait, de dire, OK, si on est pour faire un robot... On prend les trois lois puis on ferait créer une histoire. Moi, je pense qu'on pourrait créer des histoires beaucoup plus intéressantes. Puis une histoire qui serait intéressante, c'est comme les robots qui s'entretuent. Parce que les robots n'ont pas le droit, dans les lois de la robotique, ils n'ont pas le droit de faire du mal à un être humain. Ils n'ont pas le droit de... C'est quoi la deuxième loi? Ils doivent obéir à un être humain. Puis la troisième loi, ils doivent se protéger eux-mêmes. Mais c'est écrit nulle part qu'un robot ne peut pas tuer un autre robot.
C'est vrai, c'est ça.
Donc, ça serait amusant que tu aies une police et que tu aies des robots qui ne s'aiment pas, qui s'entretuent. Tu sais, on pourrait jouer là-dessus.
Mais ce qui est plus intéressant,
ça pourrait être pour ton iRobot 3, ça va être ça, le de prémisse, OK?
Robots versus robots.
Puis ça va être Will Smith qui va revenir puis qui va être l'enquêteur qui va enquêter sur un meurtre de robot.
Attends, mais on ne parle pas de cyborg. Admettons que tu es à moitié humain, à moitié robot. Ben, là, le conflit redevient complet. Mais en tout cas, il y a une chose que le livre fait mieux que le film, définitivement.
Il y a plus qu'une chose que le livre fait mieux que le film.
Mais c'est qu'il met beaucoup de subtilité et de questionnement par rapport aux trois lois. Parce que la plupart du temps, c'est Donovan et son copain, en tout cas les deux scientifiques qui testent des nouveaux robots, qui chient, qui font des affaires qu'ils ne devraient pas faire. Et toujours en réfléchissant aux trois lois, ils essayent de trouver qu'est-ce qui ne va pas puis comment trouver une solution pour être plus intelligent qu'eux. Fait qu'ils remettent en question comment... c'est ça. Une chose en particulier, c'est qu'il y a trois lois et ils sont dans l'ordre. Il y a la numéro 1, qui est plus importante que la numéro 2, qui est plus importante que la numéro 3. Et souvent, ils vont se questionner sur le fait que des fois, la numéro 2 va être plus importante que le numéro 1 à cause du contexte. Et que des fois, le numéro 3 va être plus importante que les deux autres à cause du contexte. Parce qu'il n'y a pas eu d'ordre.
Elle sera pas plus importante, mais là, comme...
Ça, c'est pas dans le film du tout. C'est complètement ce qui vient dans le film. Et ça rajoute une profondeur hallucinante.
Non, tout ce qu'ils font... La seule allusion qu'ils font dans le film, c'est que Vicky... je sais plus si c'est Vicky qui le dit ou s'ils comprennent que Vicky a compris que ces lois peuvent être... manipuler, déformer,
interpréter. Un peu comme la Bible, tous les textes religieux.
Revenons-en à la fin avec Vicky qui décide que moi, je pense que ça ne marche pas parce que...
On s'en fout, on est diverti.
Des fois, il faut mettre
son cerveau
à off. Moi, je suis geek. Ça m'a énervée, OK? C'est comme genre, ils sont pas supposés du tout faire de mal à des êtres humains. Ils pourraient le faire de façon plus subtile. À la limite, si t'avais les robots qui faisaient une espèce de blocus genre à la Gandhi ou est-ce qu'ils empêchent juste les gens de passer puis ils leur disent « Non, non, rentre chez toi parce que si tu sors et tout... »
Ouais, c'est pas les robots méchants, mais c'est les...
Oui, ça serait tellement meilleur. Ça serait encore plus
spooky. Ça devient oppressant.
Parce que là, tu pourrais avoir tous les robots qui se mettent autour des gens puis qui gentiment les ramènent chez eux. Non, il est pogne, il frappe, il est comme...
Ouais.
T'es comme... Non!
Ah ouais, ça marche pas.
Tu peux pas faire de mal à un être humain, tu sais.
Ouais. Ah là là.
C'est Powell et Donovan, tes deux gars.
Comment? Donovan et...
Powell.
Ils sont pas dans le film, mais il me semble qu'il y a plein de noms dans le livre qui ont été réutilisés à mauvais escient en général dans le film.
Le chat de Lanning s'appelle Asimov.
Là, Lanning, puis,
le chat de Lanning s'appelle Asimov.
Oh, ouais. Quel hommage.
Le vin est extraordinairement bon.
Ah, ben, je suis heureux que ça vous plaise. C'est vrai qu'il
d'ailleurs,
est.
D'ailleurs, pour le reste du podcast, on pourrait parler du vin.
Non, mais de toute façon, on va conclure. On arrive au bout. Alors, je pense qu'on a fait le tour.
Ça n'a pas été un débat aussi ensanglanté qu'on espérait.
Non, c'est parce que t'es un petit peu grippé, puis.
Oh, tu penses que ça a enlevé des facultés?
Non, mais je pense que parce que finalement.
Non, c'est parce
que
j'aime le livre et que je vois la différence entre les deux.
Ben oui, c'est ça.
Je peux comprendre.
Puis toi aussi, par rapport à la première fois
que
tu l'as vu, ton jugement a changé.
Je pense que tu es capable de se battre plus sur Independence Day.
Ah ben, oui, ça. Il n'y a pas de livre.
Il n'y a pas de livre pour venir
nous faire.
Ça, c'est vrai.
Il n'y a pas de livre pour ramener.
C'est le film pour le film.
C'est vrai qu'il faut dire que moi, ma grande objection, c'était effectivement lié à l'adaptation du livre.
Oui, parce qu'on s'entend.
Puis je trouve
ça
le fun.
Ce n'est pas une adaptation.
Puis je trouve ça le fun qu'on en ait parlé, qu'on ait fait le tour, la genèse, etc. Qu'on ait pu parler du livre en même temps que du film avec tous les détours qu'on a fait comme d'habitude.
Ce n'est pas une adaptation, mais ceci dit, tout le monde fait le lien avec le livre.
Le même titre.
Et si
moi, j'ai le livre d'Asimov avec la couverture, c'est Will Smith dessus.
Exactement.
Ouais, ça, je comprends pas.
Ça, c'est ridicule.
C'est très ridicule.
Complètement ridicule.
Mais c'est du marketing.
Même moi, j'approuve pas.
C'est juste du marketing.
C'est marqué « Soon to be a major motion picture from 20th Century Fox ». Puis j'ai le goût de vomir. Là.
Mais ceci dit, le film pour le film, c'est certain que c'est le genre de film qui me laisse plus ou moins... indifférente. Tu sais, c'est presque un épisode de TV, là, tellement c'est cliché.
Oui, moi, c'est ça.
Ce que je veux dire,
contrairement à toi, je n'éprouve pas le besoin de le revoir une fois par année. Là. Moi, je l'ai vu, là, c'est bon.
Ben, je comprends
c'est un bon épisode
d'Outer
Limits.
Je comprends ce qu'Olivier...
Non, je pense qu'Outer Limits, c'était plus subtil que ça.
Meilleur,
ça dépend de l'épisode.
Non, mais tu as dit un bon épisode. Si tu compares un bon épisode d'Outer Limits...
Ils sont pas tous bons.
Oui, mais...
Oui, non, c'est clair.
Un bon épisode d'Outer Limits est supérieur à un robot.
C'est possible.
Mais ceci dit, moi, pour me détendre puis pour me relaxer, pendant des années, j'ai écouté plusieurs fois par année Pretty Woman. T'sais? Donc, je peux comprendre qu'un film insignifiant.
Non, c'est ça, on a
je peux comprendre qu'un film insignifiant va avoir un impact.
Comment t'appelais ça, Nick, tantôt?
Les comment on appelle ça en français? Ah,
le plaisir coupable.
Le plaisir coupable.
Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est le nom d'une série de desserts de choix du président. Ouais. Là. Mais oui, celui-là, il est dans ma liste. Ouais. Désolé.
Voilà. Et oui. Bon, allez, je pense que c'était le mot de la fin. Et sur ce, voilà, comme d'habitude, où c'est qu'on vous retrouve en attendant la prochaine fois sur les internets?
Marie-Lou Guerrier-Py sur Twitter. Vous pouvez, puis sur, comme on répète à chaque fois, sur 24 Quarks, 24 Quarks, Q-A-R-K.
Oui, je vais le faire moi. Ça,
je peux le faire, ça m'arrive de temps en temps de pouvoir épeler. Notre Twitter, j'écris beaucoup, je suis derrière ça, mais c'est moi Pinnick, donc c'est amusant. Vous pouvez deviner, savoir c'est qui. Qui est derrière ce billet de 24
mois. J'allais être déçu, je vous le garantis.
Les trucs plus cérébraux, c'est Marie-Louise.
Non,
et
mais tu sais, c'est drôle parce
fun.
Que t'as publié le Twitter de...
Ah, de Elysium.
Elysium, mais moi, j'avais essayé de le publier, puis je sais pas quel Twitter t'as mis, mais moi, c'est parce que je suis tombée sur une version en espagnol que j'ai publiée. Après ça, fou, puis j'ai effacé. J'ai dit en espagnol, ça n'a pas d'allure. Après ça, j'en ai trouvé une autre, je l'ai mis de Yahoo. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, ben non, il est comme en SD, il est super poche, mauvaise résolution, je l'ai effacé. Puis là, je me suis tannée, j'ai d'autres choses à faire qu'essayer de publier le trailer d'Elysium.
Mais heureusement, j'étais là.
Mais il faut que j'aille voir, parce que je ne sais pas s'il est aussi piqué que moi. Il a mis une version HD.
Non, moi, en général, je cherche une bonne version. Je ne vais pas mettre un truc pourri.
Mais hein. Ça, mais je suppose.
Hey, vous avez des tronches, hein, by the way. Bon, c'est ça comme ça. Là. je suis pas mieux que vous autres. Hein.
Donc, toi, tu es sur
Olivier Sabineau, entre parenthèses, yo, sur Facebook.
Olivier Sabineau.
Ouais.
C'est ça. Entre parenthèses, yo.
Oui, entre parenthèses, yo.
OK.
C'est important, le yo.
Tu as atteint 5000 fans, on peut encore devenir amis avec toi sur Facebook.
Eh, ouais, venez-vous-en, là, j'ai de la place en masse.
Profitez-en, là, parce que bientôt, quand Olivier Sabineau va faire le remake encore... 3 de iRobot, oubliez
ça.
Je
suis pas donnez-moi 5 ou 10 ans, là, soit je gagne à l'auto ou je fais le troisième volet d'un.
C'est vrai qu'à gagner à l'auto, on doit avoir plein d'amis Facebook. Et ça serait un bon sujet.
J'ai tellement acheté un billet à 20$ pour le 6,49 de samedi passé. J'ai tellement juste gagné 15$.
Ah, quand même!
15$, ça veut dire genre 8 numéros sur 7.
T'as gagné 15$, ça revient que t'as payé 20$. C'est le fun!
Pas pire, hein?
C'est intéressant!
Ça veut dire que j'avais probablement 4 numéros sur 6. Là, pour dire à quel point c'est ridicule cette loterie-là.
Oh,
je vais être riche en ce moment.
Okay, on fera un jour, on parlera de probabilité, puis.
Ouais.
Tu verras que c'est le rêve que tu payes.
Et Nick, bon, toi, on te retrouve où?
Moi, je suis principalement sur Twitter. Ben, ça fait le lien partout. C'est mon point de chute. Donc, Steady Nick, avec un K. Pas CK, mais K tout seul.
T'auras jamais le Parkinson, toi, avec un nom de même.
Non, c'est ça.
Et, je serais malaisant que t'aies le Parkinson. Hein?
Ouais, ben, je changerais peut-être de handle à ce moment-là. Et puis, ouais, comme tout le reste, comme tu l'as dit très justement, c'est aussi. Toi, t'as dit quoi, Shakinik? Ça sonne bien en plus. Shakinik. Faut que je la réserve maintenant. Ouais. Je vais la réserver maintenant, je crois. Je vais tout de suite me la prendre pour le. Ah, c'est bon. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tout le reste, c'est donc sur Twitter, c'est @24QUARKS, donc @24Quark.
Ouais.
C'est aussi la page Facebook, c'est décidément, on va arrêter de boire.
Ouais, le vin est bon, hein.
Ouais, le vin est bon. La page Facebook, bien sûr, il y a des petites interactions, c'est cool. Il y a du monde qui vient, qui nous laisse des petits likes, des petits commentaires,
oui,
c'est cool, on aime ça.
C'est quoi, Eric, Cédric.
Tu parles de Joël.
Ah, Philippe Gauthier.
Joël
Martel, tu parlais de
avec les noms. Il y a Joël Martel
qui a écrit dans la
presse, qui a écrit un blog,
qui a créé, oui,
qui a, de la presse,
qui a un blog qui s'appelle La
Geekitude. Super beau commentaire, merci.
Ouais, ouais, c'était vraiment super.
Hey, on a tout braillé quand on. Non, mais on s'est fait flatter dans le sens du poil. Oui,
non, non, mais c'est clair.
C'était vraiment une bonne critique.
C'était vraiment super élogieux.
C'est une critique de même pour les films qu'on va faire. Là, même si on ne fait pas d'argent, on va être content.
Ouais.
On va appeler Cédric.
Mais c'est cool.
Non,
mais regarde.
Joël,
mon Dieu. Excuse-moi, Joël.
Mais oui, on invite Joël en première.
T'as une phrase de Cédric, j'ai pas vu ta
phrase. On invite Joël en première de notre film.
On devrait l'inviter à un de nos podcasts.
Mais pourquoi pas?
Alors, l'invitation est lancée.
Mais pourquoi pas? L'invitation est lancée. Donc, Joël, si tu seras au bout de iRobot.
Tu nous écris sur notre page Facebook, tu nous dis quel film de science-fiction tu voudrais On discute et ouais. Tu viens à la table avec nous et on en discute avec toi.
Voilà. On s'amuse, il y a du bon vin et puis ouais. C'est sympa.
Ouais,
en tout cas, ça fait vachement plaisir d'être reconnu comme ça pour quelque chose qu'on fait, qu'on aime.
Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a aimé 2001. Puis je t'avoue qu'à la fin de 2001, là, on a pris une bouteille et un quart. Donc, on est comme pas simplement. À la fin de 2001, on avait deux bouteilles et une.
Et demi,
un
truc comme
ça.
C'est 3 heures de. C'est 2 heures
et 2 heures et demie, ouais. 2 heures 40
après. Je me rappelle, j'étais particulièrement mauvaise humeur pour plein d'autres raisons en commençant le film. Donc, je t'avais calé avant le film commence deux verres de vin. Et donc, j'avais peur qu'on soit trop éméché pour rendre une émission intéressante.
C'est nos meilleurs.
C'est nos meilleurs, oui. On a plein de commentaires positifs.
Je pense que plus on a de fun, plus.
Mais je pense que tous les vraiment majeurs, alors les Blade Runner, les Alien, on va les faire comme ça.
Ouais, c'est probable.
C'est vrai, on n'a pas encore fait tous les grands classiques.
Mais non,
plusieurs
mais
saisons à venir.
Oui.
Non, c'est ça qui va être le fun des classiques, c'est de s'asseoir puis de les regarder comme
ouais.
ça.
Bon, et on arrive à 1h30 là, quasi d'émission, donc on va conclure quand même.
Excusez-nous.
Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien.
Donc
c'est ça. Tout le reste, bien sûr, donc c'est sur notre site 24quark.com. Et sur iTunes, n'hésitez pas sur iTunes aussi à nous mettre des commentaires, des petits ratings et tout ça, parce que ça peut nous faire monter dans le classement
peut-être
de iTunes.
Ça peut être au début de l'épisode, avant ouais. que les gens décrochent avant la
fin. Et donc c'est ça. Et puis, et ben, dans 2 semaines, ça devrait être dans 2 semaines normalement, parce que je sais qu'on est un peu occupés là tous, donc, mais on essaie d'être assez réguliers. On va continuer un peu notre exploration du monde merveilleux de la robotique et de l'intelligence artificielle.
C'est vrai,
hein. C'est vrai, hein.
Mais là, de toute façon, beaucoup
plus c'est possible. Mignon. Il y a ton chat qui dit quelque chose au micro?
Non, j'essaie de faire dire quelque chose, mais...
Moi, si ça avait été ton chat dans la voiture, là, j'aurais compris que Will Smith soit fâché de ne pas avoir sauvé...
Ton chat.
Ouais. Ton chat ne s'appelle pas Asimov, il s'appelle Alice. Mais c'est un peu pour les mêmes raisons.
C'est Alice de Resident Evil.
Donc, on parlait du prochain film.
Donc, c'est ça. Donc, on va rester dans la robotique et l'intelligence artificielle avec le film d'animation japonais Ghost in the Shell.
Yes! Ooh. Yes!
Gozoto in the Shell! Gozoto in the Shell!
Hein? Gozoto in the Shell! De Mamoru Oshii de 1995. Et quoi de mieux que de se quitter avec The Bande Annonce du film. Donc c'est ça. Donc merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
プロジェクト2501人形使い計画確かめてみるさ自分のゴーストでな。 人間が人間であるための部品が決して少なくないように 自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。
Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play a game?
24 secondes.